Salut à tous, bienvenue sur Gameblog pour le podcast de la rédaction, le podcast hebdomadaire. Aujourd'hui épisode 426, on va s'intéresser grandement à la baston, mais aussi à Far Cry 5 qui a fait parler de lui cette semaine et à d'autres petites réjouissances. Nous sommes aujourd'hui avec Johnny One, notre spécialiste de la baston maison, avec Camille qui va vous parler un petit peu de PC comme d'habitude, et avec un invité tout spécial, tout particulier et qu'on accueille chaleureusement avec plaisir et sous les applaudissements, Monsieur Genius, un autre expert de la baston évidemment, puisque tu officies évidemment à l'eSport Club sur Canal+, sur Game One, Team G1, et puis tu es surtout joueur professionnel, notamment de Street Fighter et plus anciennement de Tekken.
De Tekken, ouais.
Bienvenue.
Merci pour l'accueil.
On est très heureux de t'accueillir et de pouvoir profiter de tes lumières là aujourd'hui pour parler un peu de tous ces jeux de baston, parce qu'il y a énormément de jeux de baston qui sortent en cette fin mai, et c'est pour ça qu'on organise ce podcast aujourd'hui. Alors on va commencer comme d'habitude avec le win et le fail de la semaine. Et bah justement, heureusement que t'es là, parce que toi, le Red Bull Comité, t'y étais, et c'est un peu le win de la semaine, parce que je crois que ça s'est super bien passé.
Ouais, le Red Bull Comité, bah c'est toujours un événement incroyable. C'est un tournoi invitationnel qui a lieu chaque année à la salle Wagram sur Street Fighter 5 avec les 16 meilleurs joueurs du monde, et c'est toujours un spectacle absolument incroyable. C'est, je pense que c'est quelque chose qui fait du bien, notamment au versus fighting et à l'e-sport, parce que c'est vraiment théâtralisé et tout le monde en parle. Vraiment,
bah, la cage, hein.
C'est la cage, ça. C'est la cage, la fameuse cage. Voilà, c'est sous forme de cage, c'est-à-dire qu'il y a 16 joueurs qui rentrent dans une cage pour gagner le trophée final et être champion du Red Bull Comité. Il y a un petit peu moins d'argent que les autres tournois. C'est pas un tournoi du Capcom Pro Tour.
Oui, c'est un tournoi à part en fait. Hein,
voilà,
qui n'est pas dans le circuit, comme on dit.
Exactement, il y a aucun point, ça compte absolument pas pour le classement officiel. C'est vraiment un tournoi chaud, un tournoi d'exhibition, et c'est un moment incroyable. C'est juste incroyable.
Bah, ça a de la gueule. On parlait de la cage, c'est aussi Salvagram, ça a de la gueule aussi. Je crois qu'il y a plein de monde. On a vu Guillaume d'Horizon qui faisait les commentaires français en costume, façon Dragon Ball, tu sais.
Exactement. Il y a même la musique de Dragon Ball derrière et tout. Ouais, mais
ça a de la gueule, quoi.
Ça se veut un petit peu entre l'animé et les anciens films, tu vois, des années 80, Jean-Claude Van Damme, tu vois, avec le côté comité, il a invité avec tous les grands champions qui se retrouvent dans une cave. Je sais qu'à chaque fois que quelqu'un est éliminé, il ouvre un petit cadenas. Et au bout de tous les cadenas, bah, tu peux ouvrir le coffre pour enfin avoir le trophée. Donc il y a vraiment ce côté old school, mais vraiment superbement mis en scène, et c'est vraiment super. Tout le monde entier regarde, tout le monde en parle. Je sais que Red Bull, ils font même cet événement à perte, mais ils le font parce que, je te dis, ça fait du bien.
Il y a des moyens en plus, hein, ça se voit.
Il y a des moyens, plus, c'est plus que des moyens, c'est traité comme un roi. Ouais. Et vraiment, c'est super, c'est un grand moment. La veille, il y a le Open Qualifier qui permet à deux joueurs de se qualifier pour la cage.
C'est le tournoi ouvert à tous, quoi, voilà. Qui a lieu le samedi, avant le vrai tournoi, entre guillemets, le dimanche.
Exactement, parce qu'il y a 14 joueurs invités donc, d'office qui sont choisis et sélectionnés pendant l'année. Et la veille, donc, le tournoi Open Qualifier de 256 joueurs, les deux premiers, bah, ils sont qualifiés pour jouer dans la cage le lendemain.
Alors toi, t'as participé?
Ouais, j'ai participé.
T'es arrivé 9e, c'est ça?
Malheureusement, j'ai fait 9e, donc je n'ai pas été dans la cage.
C'est pas si mal, 9e.
Bon, j'étais à côté de la cage.
Juste à côté.
J'étais sur le côté, je regardais.
Tu l'as vu de l'extérieur.
Voilà, exactement. Ouais, non, 9e, j'étais pas en grande forme, mais
qu'est-ce qui s'est passé?
Tu sais, Street Fighter 5, voilà, c'est du niveau. J'ai pas énormément joué ces derniers temps, mais voilà.
Il faut dire que t'es un joueur récent de Street Fighter, parce que t'étais surtout sur Tekken.
Ouais.
Et t'as commencé vraiment à jouer à Street il y a un an et demi.
Exactement. Je m'y suis mis à la sortie du jeu, donc en février 2016, et je m'attendais vraiment à rien, parce que moi je suis un joueur de Tekken, j'avais pratiquement jamais joué au jeu 2D, et ouais c'est super bien passé. Bah ouais, je suis devenu dans les top français.
C'est quoi ton palmarès sur Street Fighter du coup ce jour?
Sur Street Fighter, j'ai fait vice-champion français l'année dernière, un tournoi qui s'appelle ROF. J'ai fait 3ème européen, donc lors d'un tournoi du Capcom Pro Tour officiel, et j'ai fait champion de France officiel en équipe. Voilà, et puis
avec Courbevoie, c'est
avec
ça.
Courbevoie, Team Courbevoie,
Team Courbevoie.
La fameuse au Grand Rex, qui était un tournoi incroyable, et voilà, souvent des
top. Super tournoi. On a fait un grand reportage vidéo avec Johan. Très sympa.
Que je vous invite à suivre, c'était incroyable. Et voilà, des top 8, top 9 dans les grands tournois, événements majeurs mondiaux. Donc,
alors sur Tekken, là, t'es carrément vice-champion du monde. T'as été vice-champion du monde,
ça commence
champion
à dater.
Européen, et puis t'as eu plein de fois le championnat de France aussi.
Et championnat de France, ouais, 14 fois. Donc voilà, et puis Tekken 7, j'ai gagné un ou deux tournois, puis c'était tournoi invitationnel parce que le jeu n'est pas sorti. Mais voilà, donc Street Fighter 5, c'est un super jeu. Je m'y suis mis, on va dire, à la base par défaut, parce que Tekken n'était pas là. Et franchement, non, c'est un très très bon jeu. Et puis Red Bull Comité, c'était un tournoi à ne pas rater. J'avais jamais fait.
Qu'est-ce qui fait que cette année, justement, c'était particulièrement... J'ai vu que tout le monde s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Ouais. Quelle édition extraordinaire, etc. Mais je crois qu'il y a eu un gros suspense sur la fin, notamment.
Il y avait un gros suspense sur la fin parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'était pas un Daigo, c'était pas un Bonchan, c'était pas un joueur, on va dire, très très connu qui a gagné. La finale, c'était entre un joueur japonais, un tout nouveau joueur japonais de, je crois, de 18 ans, 20 ans, qui joue en plus un perso qui s'appelle Rachid, qu'on a pas l'habitude de voir. C'est pas un tournoi, perso, voilà. C'est pas un perso qu'on dit pété dans le jargon, c'est-à-dire cheaté, qui jouait contre Nemo. Nemo qui est un petit peu plus un joueur un peu plus d'expérience, mais qui avait pas vraiment, on va dire, prouvé sur la scène internationale. Et en plus, Nemo revenait des loser brackets, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu dans le tournoi. Et quand on perd dans un tournoi, il y a les winners et loser brackets. On a encore une chance de revenir. C'est une règle qui a été inventée par les.
C'est le rattrapage, quoi.
Exactement. Mm. Une règle qui a été inventée par les Américains. Donc il revient en finale et il a dû gagner 2-7, donc 2 premiers à 3 contre ce joueur Gachinkun qui jouait Rashi. Donc il gagne 6-1 et au final il remporte le Red Bull Community.
C'est génial.
C'était incroyable. En plus, on le voyait, nous on était près de la cage avec la caméra, on le voyait trembler. En fait, il avait peur, il tremblait. Il a même demandé un moment à s'arrêter pour boire de l'eau, pour souffler. C'était absolument fou parce que je vous dis, l'ambiance qu'il y a là-bas, le monde qu'il y a là-bas, il y a tout le monde entier qui vous regarde. C'est un petit peu un Evo mais différent. Franchement, c'était juste, c'était exceptionnel. Exceptionnel.
Voilà. Donc, bah écoute, merci pour ce petit résumé.
C'était
effectivement un super Red Bull Comité. Alors, on voit des images encore.
James Bond du.
C'est ça. James Bond et le mec du tournoi des arts martiaux.
Exactement. Tu vois, bah voilà, c'est ça. Tu vois tout. À chaque fois que t'as un éliminé, il ouvre le cadenas. Et là, donc, le dernier, il ouvre le cadenas pour avoir la boîte et avoir le fameux trophée. Voilà.
C'est
la mise en scène. C'est comme Bloodsport de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Tout le monde est invité. Le truc secret. Et voilà, il gagne ce fameux trophée.
Donc là, c'est Gachikun.
Nemo. Ouais, qui a gagné contre Gachikun. Nemo, franchement, joueur exceptionnel qui joue Mont Urien cette fois, qui est un perso non plus pas mauvais. Et voilà, les confettis, la mise en scène.
Ouais, oui, donc ça a de la gueule.
Non, c'est absolument. Il y a les commentateurs japonais, commentateurs anglais, commentateurs du monde entier.
Oui, c'est traduit en plusieurs langues.
C'est traduit
en
plusieurs langues. La salle est magnifique. Franchement, c'est du très 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 beau boulot. C'est un des plus beaux événements e-sport, je pense, de l'année.
Ça, c'est vraiment le genre d'événement qui peut faire grandir l'e-sport dans le cœur un peu du grand public, etc.
C'est un peu
ce qui est dur à faire finalement avec l'e-sport.
L'e-sport et l'e-sport versus, c'est pour ça que des événements comme ça, des événements comme la Coupe de France au Grand Rex, tout le côté, voilà, je te dis, mise en scène théâtralisée, et le fait de, comme ça, la frontière entre le sport et l'e-sport, le côté spectacle est un petit peu plus réduit, et c'est ça qui nous aide et qui nous fait plaisir, quoi.
Bah écoute, merci encore. On va passer au fail maintenant, parce qu'il y a eu du fail aussi. Et là, je me tourne vers toi, Camille. Il y a eu un report qui nous a fait mal au cœur.
Et oui, un drama. Bah, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une annonce de Rockstar, c'est toujours attendu comme le Messi. Et là, malheureusement, c'est pas une annonce qui fait beaucoup plaisir. C'est une annonce même qui était assez dramatique pour les fans, puisque Red Dead Redemption 2 a été repoussé.
Qui doit être le jeu probablement le plus attendu de l'année. J'imagine pour toi aussi, parce que tu fais pas que de la baston.
J'ai d'autres jeux, mais ouais, j'étais déçu aussi.
Et ben, il a été donc via Twitter, un message Twitter, on a appris que le jeu était retardé. Donc au printemps 2018, il y a eu des précisions par la suite. On a appris que ce serait vraiment entre avril et mai.
Ouais.
Donc voilà, entre le 1er avril et le 30 mai.
Ça fait loin.
Ça fait loin.
L'année fiscale suivante.
Exactement,
en fait,
ça fait mal au cœur du coup pour les fans.
C'est un an presque en fait.
Bah c'est ça, ouais. On peut espérer que du coup c'est pour le bien du jeu.
Mais c'est un peu ça l'idée. C'est ce que je dis à chaque fois qu'un jeu est retardé. Je trouve ça plutôt rassurant en fait. Finalement, là on le met dans le fail parce qu'on est tous évidemment déçus de pas pouvoir y jouer cette année. Ça fait un an et demi qu'on se dit putain, c'est bientôt. En même temps, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont le loisir de pouvoir le faire, parce que c'est Rockstar, qu'ils ont des moyens et qu'ils veulent pas sortir des jeux. Voilà.
Ça doit sortir parfaitement, sans aucun bug.
Et finalement, c'est presque rassurant quand un jeu comme ça. Je me souviens, on a eu même débat à l'époque pour Uncharted 4 qui avait été retardé aussi, et bon, finalement c'était pour retrouver un jeu extraordinaire à la fin, et on n'en doute pas, ce sera certainement le cas pour Red Dead Redemption 2.
Et petite précision, ils ont bien annoncé dans Twitter, donc ça serait une sortie PS4 Xbox One en avril-mai 2018, donc on peut peut-être espérer, ou pas du tout, une version PC pour plus tard. On sait pas.
Ils n'avaient pas annoncé, je crois qu'ils avaient annoncé.
Mais Red Dead Redemption, le premier, n'est jamais sorti sur PC,
mais justement, c'est...
GTA 5 est sorti, pourquoi ils sortiraient pas celui-là?
Bah parce que Red Dead Redemption, le premier, n'est pas sorti en tout cas.
Il est sorti après, GTA 5.
Tout le monde, voilà, tout le monde. C'est vrai que c'était sorti, mais...
Avec le courant Microsoft qui est en train de se faire, il y a vraiment quelque chose vers le PC qui est en train de se tourner plutôt favorablement, et du coup on pourrait peut-être penser que les joueurs PC auront une chance de pouvoir y toucher.
Bon, à mon avis, ils vont faire comme ils ont fait avec GTA,
peut-être entre 6 mois et un an plus tard.
Ce qu'ils ont fait avec GTA, c'était grandiose, parce qu'ils ont fait une deuxième sortie, quoi.
Une version de tous les diables, avec tous les DLC, tout ce qu'il y avait déjà sorti.
Oui, puis c'est la version plus plus.
Il est incroyable GTA 5, franchement, c'est un coup net, parce qu'encore aujourd'hui, c'est une des meilleures ventes de Steam.
C'est une des meilleures ventes de jeux tout court.
Ah oui, puis en ligne.
GTA 4 aussi est resté très longtemps dans les charts.
Là, ils ont annoncé 80 millions il n'y a pas longtemps pour GTA 5. C'est énorme.
C'est vraiment énorme. La version PS4 du jeu, c'est toujours dans les tops.
Et ça prouve bien aussi que du coup, le jeu PC se vend très bien puisque la version PC a fait un très bon score. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle a fait un très bon score. Et du coup, ça serait étrange de se dire, d'un point de vue marketing, de s'asseoir sur cet argent et sur cette manne financière en sachant que ça peut faire un gros succès aussi sur PC.
Voilà. Bon, voilà. Donc, un fail qui deviendra un win, un de ces quatre. On le sait, ça sera au printemps 2018.
Mais on sait qu'il n'y a jamais de surprise avec Rockstar. On sait que ça va marcher de toute façon.
Dernier petit détail pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas peut-être, il est très, 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 très peu probable qu'on ait des nouvelles de Red Dead Redemption pendant le 3. Parce qu'à le 3, ils n'y sont pas.
Ils y sont jamais de toute façon.
Mais par contre, ils ont promis des nouvelles pour l'été. Donc voilà, au moins on aura.
Mais ils vont faire leur petite vidéo en fait.
Moi, je m'inquiète jamais parce que faut savoir que moi, je suis le plus grand fan de l'histoire de Rockstar et qu'ils font des chefs-d'œuvre à chaque fois et que franchement, ils peuvent retarder de 10 ans. Je sais que ce sera du grand jeu. Voilà, je sais que ce sera du grand jeu, même si bon, on est un petit peu impatient.
Surtout qu'avec Rockstar, c'est jamais. Il y aura jamais une conférence, un truc. Rockstar, ça sera genre un mini trailer, un petit teaser de 2-3 minutes et ça suffira à emballer la foule.
On rappelle Red Dead, il avait annoncé le même jour que la Switch. Il y avait le trailer, c'était l'époque. Franchement, on parlait plus de Red Dead que de la Switch.
C'est clair.
Tu vois, donc c'est les patrons quoi.
Même à l'époque de GTA 5, quand t'as lu le trailer, c'était juste incroyable.
C'était le jour de mon anniversaire, t'imagines.
C'est vrai.
On a eu Red Dead Redemption plus la Switch.
On n'a pas parlé de toi du coup. On a parlé que de.
Personne n'a parlé de moi.
C'est
dégueulasse.
Les salauds.
Bon les gars, après toutes ces digressions, on revient à la baston, parce que c'est un peu le sujet principal de ce podcast et c'est pour ça que t'es là. Merci encore d'être avec nous et on va parler de tous ces jeux de baston, parce que autant les jeux de baston il y a pas beaucoup qui sortent comme ça d'une manière générale, surtout depuis les dernières générations. Ouais, c'est ça. Et là en tout cas pour ce mois de mai, c'est impressionnant.
On est gâté,
Injustice 2, Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers sur Switch, Guilty Gear Xrd, c'est qu'on dit Xrd,
Xrd
Rev 2, donc la dernière version. Faut pas oublier King of Fighters 14 aussi qui sort sur PC le 15 juin. Il y a évidemment l'inénarrable Street Fighter 5 que tu connais très très bien,
toujours là,
Et puis ceux qui arrivent très bientôt, alors on va mettre entre parenthèses Arms parce que c'est pas vraiment, même si c'est de la baston, exactement le même genre,
c'est
mais
du versus,
c'est du versus fighting quand même, c'est
du versus,
il y a de la technique, oui voilà, un peu popcorn. Mais il y a surtout Tekken 7 qui arrive le 2 juin. On va pas pouvoir en parler en profondeur malheureusement aujourd'hui, on reviendra peut-être dessus, mais dans tous les cas vous avez pu le tâter quand même, surtout toi depuis maintenant 2 ans.
Moi j'y ai joué 2 fois par an quoi.
C'est ça,
parce qu'il faut savoir que c'est un jeu, les joueurs asiatiques l'ont en arcade depuis 2 ans et demi,
c'est ça,
donc eux ils l'ont joué, eux ils attendent déjà Tekken 8.
C'est pas la même version exactement qui arrive sur console, elle va être
un peu modifiée,
fine-tunée,
améliorée, mais voilà, déjà pour le côté e-sport c'est très ennuyeux parce que 2 ans et demi à jouer jour et nuit, nous on va avoir le jeu depuis 2 jours,
il y a du retard,
voilà. Mais de ce que j'ai pu tester, tâter, franchement c'est le vrai retour de Tekken 7. Moi j'ai vraiment,
tu dis le retour parce que t'as pas aimé ce qu'il y a eu depuis quelques années.
Moi j'ai pas aimé Tekken Tag 2, je trouve que c'était, j'aimais pas déjà le côté de perso, je trouve que c'était un jeu trop permissif, j'aimais pas le gameplay. Et là déjà c'est le premier Tekken sur console nouvelle génération, c'est à dire que depuis des années on a Tekken 6, Tekken Tag 2 sur PS3,
si, on a eu Révolution aussi,
on a eu Révolution, mais pareil c'était un Tekken bis sur, toujours sur PS3, PS4, enfin PS3 et 360. Et là c'est le nouveau Tekken sur nouvelle génération. Franchement, il est magnifique, il est beau, il est profond. Ils ont rajouté quelques nouveautés dans le gameplay, comme la super, comme dans Street Fighter, t'as une super de fin. Je sais qu'il y a un mode online incroyable avec un mode tournoi online, des modes custo incroyables. Franchement,
les super marchent comme dans Street.
Et c'est exactement, en fait, pas exactement. C'est les super, tu ne peux les activer que quand t'as plus d'énergie. Donc quand t'as plus d'énergie, tu peux activer ta super et c'est un coup qui arrache.
C'est une furie de dernière minute pour renverser la table de thé.
C'est une furie de dernière minute et franchement. Ça pénalise pas trop le jeu, il est vraiment beau, il va vite et comme je le dis il est à la fois accessible mais très profond pour les joueurs pros. Franchement il fait grand plaisir, il y a plein de niveaux, plein de persos, c'est le vrai retour de Tekken pour moi.
Et les 10 hits combos, ça n'existe plus, ça.
Non, ça n'a jamais existé.
Attends, moi je faisais ça sur Tekken 2,
quand t'es copain.
3.
Quand t'es copain. Si, ça existe encore, mais bon, c'est un peu dur à placer. Mais ils sont toujours là.
Tournoi, on voit pas ça, par exemple.
C'est très difficile. Tu peux essayer de le placer, mais non, ils sont toujours là. Mais surtout, voilà, les grosses nouveautés, c'est, je pense qu'il y a un mode online incroyable, un nouveau mode story qui apparemment s'annonce fou. Et le jeu est vraiment hypé, quoi. Il y a déjà eu, il y a déjà eu 5 championnats du monde alors que le jeu n'est pas sorti. Tout le monde part de ce jeu. Les joueurs Street Fighter, ils veulent s'y mettre absolument. absolument. Alors c'est quand même des jeux de...
C'est un gameplay très différent quand même. Dans desquels tu tapotes un peu, c'est du rythme.
Ouais, et puis c'est du 3D, et puis je sais pas, le jeu il est à la fois tellement simple et tellement profond et...
Comme Street, hein, d'ailleurs.
Comme Street, exactement. Comme Street 5. Et du coup, tous les genres de Street, ils sont tellement, je te dis, hypés par ce jeu. Ils veulent tous s'y mettre. Franchement, en plus, il est super beau. Et non, il va faire plaisir. Puis c'est du 1 contre 1. C'est plus du 2 contre 2 comme Tag 2. Franchement, j'ai hâte. Il sort très bientôt, là, enfin. Enfin, le jeu qu'on n'attendait plus. Et voilà, pour moi, c'est le vrai nouveau Tekken. Ce que je te dis, Tag 2, j'y ai pas joué. Donc en gros, j'attends ce jeu depuis Tekken 6. Tekken 6, j'ai arrêté en 2010-2011.
Ouais.
Et franchement, c'est top, quoi.
On va évidemment parler de tous les autres jeux, mais typiquement, c'est le jeu qui fait hésiter à les joueurs actuellement. Voilà, est-ce que j'attends Tekken ou est-ce que je saute sur d'autres jeux, parce qu'il y a de la qualité quand même. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne un peu les uns après les autres, et que vous en disiez un petit peu tous les deux ce que vous en pensez. Alors d'abord, il y a Injustice 2, on va les prendre dans l'ordre où ils sont sortis, tout simplement. Injustice 2, Johnny, t'as aimé?
Ouais, alors moi j'ai passé pas mal de temps sur le jeu, donc pour le test, et non, j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. Donc on reprend les bases de gameplay de ce qui existe sur la série des Mortal Kombat, on l'adapte avec donc les personnages DC, donc Batman, Superman, Harley Quinn, etc. La force du jeu, l'autre force du jeu hormis son gameplay, moi je suis pas spécialement fan des gameplay Mortal Kombat, je trouve ça assez rigide. Il faut enchaîner, c'est tout à coup de timing, il faut bien mettre le bon timing.
Je vais dire ce que j'en pense,
pour...
c'est pas un avis de spécialiste, mais alors visuellement, mais j'ai toujours trouvé ça nul, quoi. Enfin, Mortal Kombat j'ai adoré à l'époque, mais si tu veux ces animations avec ces personnages rigides qui bougent comme ça.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu tous un balai dans le cul.
Ouais, bon, pour le dire, voilà.
Après, pour dire joliment.
Tu nous ôtes les mots de la bouche.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Après, graphiquement, si, moi je le trouve pas mal, hein, cette Injustice 2. Moi, en fait, t'as des grosses inégalités dans le chara-design, c'est-à-dire que t'as certains persos qui sont vraiment très très jolis. Tu prends une Harley Quinn, elle est magnifique. Tu prends Catwoman à côté, c'est un lèbron, quoi.
Mais enfin... c'est surtout les effets, tu vois, par rapport à Injustice 1. Bon, évidemment, on est sur PS4, il y a vraiment des effets de super et des effets dans le niveau, les effets de lumière. Il y a des niveaux qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et comme tu dis, c'est un petit peu irrégulier. C'est des fois, il est super beau,
des fois, c'est
en fonction
des
niveaux des persos,
beau,
et des fois, c'est un peu laid. Mais moi, je le trouve vraiment bien. Je l'ai testé un petit peu très récemment aussi, encore une fois. Moi, je trouve, à part évidemment ce côté gameplay, rigide gameplay, il est très très péchu. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un mec, t'as le son, il a donf, ça va vite.
C'est très impressionnant visuellement.
C'est super impressionnant. Et puis quand t'es fan,
les transitions de niveau, le fait de pouvoir tout balancer,
ça va dans tous les sens.
Non, c'est vraiment pas mal.
C'est super
très dynamique, très nerveux.
Exactement, dynamique, nerveux.
Après, le truc qui est bon là-dessus, c'est que n'importe qui peut y jouer. C'est-à-dire, tu prends ta grand-mère, tu vas la mettre sur Injustice.
Jouer avec ta grand-mère.
Ouais, tu peux jouer avec ta grand-mère.
T'as essayé,
non.
C'est ce qu'on disait de Tekken à l'époque.
Ouais,
complètement faux, en fait.
Exactement, c'est faux. Bah, tu sais, c'est comme tout jeu de baston. Mais surtout, il y a un système de loot qui est vraiment sympathique.
Ouais,
si
après, donc t'as ça. Donc t'as un gameplay qui est vraiment pas mal, qui est assez profond pour ceux qui veulent l'approfondir, qui reste. Le jeu sera à l'Evo, je crois.
Le jeu, bien sûr, il est déjà à l'Evo, il est déjà joué.
C'est ce que j'allais vous demander. C'est vraiment un jeu calé pour l'eSport, ça.
Il y a un joueur qui s'appelle Sonic Fox, c'est le champion du monde. Il est quadruple champion du monde de Mortal Kombat Injustice. Et faut savoir, c'est un jeu d'américain. C'est un jeu où il y a une bonne communauté en France, mais c'est un jeu essentiellement joué aux États-Unis, comme Mortal Kombat. Donc, mais là,
c'est grâce au public américain, tu veux dire qu'il est dans l'e-sport un peu?
C'est grâce au public américain, c'est un petit peu comme Smash Bros, tu vois. Mais et surtout que là, ils ont annoncé un circuit à 600 000 $ sur Injustice 2, donc ils ont mis quand même les moyens.
C'est du lourd, là.
Ouais, ils ont mis du lourd, et même, je te dis, comme le dit dans le côté grand public, ils ont vraiment mis le paquet sur la pub, la communication, le côté DC, donc Marvel, super-héros.
Ça joue beaucoup. Ouais,
voilà, ça joue beaucoup, tu vois.
Avec les récents films et tout. Aussi,
voilà.
C'est Superman vs Batman, t'as vu le film, tu vois ça, tu te dis
c'est surtout...
t'as envie de jouer, ouais.
Donc ça, c'est un des autres points forts du jeu. Donc c'est le premier Injustice qui proposait un mode histoire qui était vraiment très très bon, où Superman devenait fou parce que en fait c'est le Joker qui mettait de la kryptonite dans du gaz hallucinogène, et Superman tuait Lois Lane sans faire exprès en croyant que c'était Doomsday.
Ah ouais.
Et donc
il
Superman
était high, comme on dit.
Ouais, voilà. Et donc Superman devient complètement fou et devient un tyran, dit écoutez les gars, maintenant c'est terminé. Donc il tue le Joker déjà et il dit maintenant c'est terminé les gars, c'est moi le boss. Et du coup il devient un tyran, un dictateur, et ça se passe pas très bien. Voilà. Et du coup forcément
c'est un peu what the fuck comme histoire quand même.
Non, c'est très très bon.
Ouais,
moi je trouve
d'un comics d'ailleurs.
Non,
il y a un comics
le comics vient après. En fait l'idée est tellement bonne
que
ça a été repris par les comics. Voilà. Et donc, en fait, c'est Batman qui mène la résistance contre Superman, voilà. Et là, le deuxième jeu, il reprend le mode histoire là où ça s'était arrêté, c'est-à-dire, un spoiler, attention, à la fin du premier Injustice, Batman arrive à battre Superman, voilà, et il l'enferme dans une prison de Soleil Rouge, et le postulat de départ de cette Injustice 2, c'est qu'en fait, on prend un monde qui se relève tout juste d'une guerre, quoi, voilà, et malheureusement, il y a un nouveau méchant qui arrive, c'est Brainiac, qui est un méchant de Superman, qui est là, on nous le présente comme... un des destructeurs de Krypton. Voilà. Et donc, qu'est-ce que va faire Batman ? Est-ce qu'il va rappeler son vieux pote Superman à la rescousse ? Ou est-ce qu'il va le laisser enfermer ? Et puis, surtout, Superman a-t-il pris du plomb un petit peu dans la tête ? Ou veut-il toujours assouvir sa domination sur le monde ?
Tu dirais que c'est l'un des points forts, parce que c'est un jeu de combat. Quand
ah,
même.
Le
c'est
story
l'un
mode. Points... Ouais, un des points forts du jeu,
c'est le
story mode. Ils ont des
scénaristes, non ? C'est ça, je crois qu'ils ont des scénaristes. J'avais discuté avec Ed Boon, j'ai fait un live avec lui, le créateur de la série. Ils ont même des scénaristes.
Créateur des Mortal Kombat,
créateur
également,
de Mortal Kombat, ouais. Exactement. Et non,
il y a du Justice League ou pas dedans ?
En fait, il y a quelques petits clins d'œil à la Justice League, mais non, c'est pas la Justice League, vu que Batman et Superman se mettent sur la gueule, ils sont pas potes là-dedans.
Donc, tu disais, Genius, il y a des scénaristes qui ont bossé, te disais.
Apparemment, ouais, il y a des scénaristes qui ont bossé sur le jeu et ils ont vraiment.
Scénaristes de DC, quoi.
Ouais, voilà. Et de là-bas. c'est facile. Mais moi qui suis, tu vois, moi je veux le dire, je suis pas fan du tout des super-héros, des Marvel, etc. Franchement, je m'éclate vraiment sur ce jeu. Parce que déjà, c'est beaucoup moins sombre qu'un Mortal Kombat. Et pour le grand public, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas le côté violent.
Ouais. Ça reste quand même assez violent.
Ouais, mais franchement,
t'as mais c'est pas les fatalités de Scorpion.
C'est beaucoup plus grand public, tu vois, et ils le mettent dans la com. Tu vois, moi, je vois ce jeu partout sur les bus, dans le métro. Ils mettent le paquet et je pense qu'il va bien marcher. Mais c'est vraiment un bon jeu. Puis pour le côté gameplay, comme tu l'as dit, il y a la facilité. Tu peux mettre les raccourcis facilité dans le menu, c'est à dire que t'as pas de quart de cercle à faire. Toutes les manips sortent un petit peu instinctivement.
Si on devait faire des catégories un peu genre accessible ou technique, il est clairement
plutôt
dans le panier de l'accessibilité.
Accessible,
quoi.
Oui.
Il est accessible dans les manips, mais après, c'est vrai qu'à haut niveau.
Mais il y a une certaine profondeur quand même.
Les combos, c'est très bien. Ouais. Tu vois les meilleurs joueurs.
Pour te taper un 10 hits combo, tu vois, il faut y aller. Hein.
Parce que là, c'est vraiment.
Faut bien connaître le truc.
C'est vraiment des 15 hits combos. c'est du lourd.
Ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. Tu te prends un coup.
Mais ça énerve les pro-gamers un peu, ça, non ?
Ça énerve les joueurs amateurs.
Tout le monde. Mais
tu as quand même une garde. Tu as le truc où tu Paris des jauges là,
oui, les cases,
où tu peux quand même interrompre un combo adverse.
Ouais, c'est des cases combo,
voilà.
Un peu. Voilà.
Ouais, ouais. Tu peux une fois par match te défendre contre contre un truc qui t'enlèverait la moitié de ta barre de vie.
Mais, voilà. Mais excellent jeu. Après moi personnellement, j'ai été chaud pour m'y mettre. Tekken 7 arrive, donc je pense que ça va être pour moi. Je vais privilégier Tekken 7, puis il y a un peu trop de jeux. Mais franchement, c'est un très très bon jeu. J'étais vraiment surpris, bien mieux que le 1. Donc ça c'est clair.
Et il y a un autre mieux que le 1, je sais pas. Moi, en fait, il y a un truc. Bon, forcément, l'histoire, je la trouve moins bien. Une suite, c'est forcément moins bien. Mais après, t'as un autre truc que t'as évoqué tout à l'heure, c'est la customisation de tes personnages.
Voilà,
le loot,
exactement.
Ouais. En gros, t'as ton mode solo story. Après, t'as tous les modes en ligne. T'as les versus classiques, etc.
Ouais.
Et t'as le mode multivers où tu vas. Voilà, donc là, c'est ce qu'on voit à l'image. T'as le mode multivers où en fait, tu vas pouvoir looter des boîtes en enchaînant les combats. Et en fait, tu vas looter des parties d'armure. Genre, tu vas looter des hauts. Des trucs pour les bras, des casques, des jambes et un accessoire.
C'est plutôt sympa dans un jeu de combat, ça. Enfin,
c'est
vraiment une plus belle.
Et en fait, non seulement ça va changer le look. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir créer ton perso un peu comme tu veux, mais en plus de ça, il y a un petit aspect RPG.
C'est-à-dire
que ça va pouvoir augmenter ta vie, ton attaque, ta défense, c'est ton spécial. Et donc le mode multivers, en gros, c'est un mode où tu vas enchaîner des adversaires de plus en plus forts. Et du coup, en stuffant ton perso, tu vas pouvoir être plus à même d'aller battre les combattants les plus forts contrôlés par lui.
Et ils prévoient même des mises à jour pour casser un petit peu le palier. Donc quand tu arrives au niveau 30-40, il y aura des mises à jour pour pouvoir continuer,
pour
comme
pouvoir
tu l'as
continuer,
dit, RPG.
Ouais.
Et du coup, c'est stratégique. Tu joues contre un Batman qui a pas la même armure. Le truc, tu vas devoir t'adapter, mettre tes genouillères, etc. Donc, franchement, le côté stratégique, c'est vachement bien foutu. Et il y a un mode, évidemment, ils ont pensé à ça aussi, un mode neutre où tout le monde joue avec le même matos pour
mode
pouvoir.
Tournoi, tout le monde est level 20 et tu peux pas mettre pause. Et,
voilà. Et,
non, ça, c'est
et
sympa,
tout le monde a le même matos. Mais surtout,
ça s'adapte bien vraiment à l'univers DC, puisque de base, les super-héros s'adaptent entre eux selon les ennemis qui combattent. Donc, Batman, c'est le premier à changer son matériel selon l'ennemi qui va combattre. Donc,
Exactement.
Donc, du coup, ça rentre bien dans le.
C'est un cheater.
Bon, pour le coup, Batman avec.
Et puis il est riche,
il s'en fout. Il fait ce qu'il veut.
Il peut s'acheter un bois, un gant aussi.
Pour le coup, Batman avec son armure en kryptonite, ouais, mais quand tu prends un Harley Quinn contre Superman, c'est un peu irréaliste, quoi.
Oui, oui.
Bah, par contre.
Ouais, ouais.
Mais on s'en fout, c'est ça.
Harley qui a un petit logo Batman dans le dos.
Ah ouais,
vous regarderez sur
ça. Amoureuse, mademoiselle. Elle est amoureuse.
Bah puis, ouais, bah forcément, vu que Superman a pété un plomb et qu'il en veut à mort au Joker, Batman, sa mission number one, c'est quoi? C'est protéger Harley Quinn.
Puis les niveaux, tu vois, tu es vachement interactif, tu peux faire, tu peux faire traverser le niveau à quelqu'un, tu peux rebondir sur les objets, franchement, c'est super impressionnant. Non,
ça va être d'autant plus difficile de choisir. Alors on va passer à un autre jeu qui est sorti très récemment et sur une nouvelle console, la Switch.
Ouais.
Par contre, c'est pas un nouveau jeu.
C'est
un jeu très ancien. Ultra Street Fighter 2, donc The Final Challenger, c'est son petit nom. C'est le Ultra Street qui était sorti sur Xbox 360 il y a combien de temps?
8-9 ans. J'ai la date dans
le HD Remix.
C'était
le HD Remix, exactement.
Et donc, il revient là avec effectivement ces graphismes HD qu'on découvre en image pour nos premiums.
Mais tu peux switcher.
L'autre, ça c'est vraiment cool.
C'est
un des trucs que j'adore.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir toujours. Et puis, quelques nouveaux modes de jeu. Et là, contrairement à Injustice, les modes un peu originaux sont pas forcément les meilleurs.
Non, ça casse pas trois pattes, hein, canard, si vous me permettez.
Alors, tu nous fais un peu, Johnny Wall.
Donc, en gros, on a le mode arcade classique. Hein,
classique,
d'accord, celui que tout le monde va jouer. Adversaires, etc. Ensuite, on a forcément du versus, du online.
Avec un mode online, ils ont remanié. Tu peux un système de points d'évolution comme d'hab, comme la version Street 5 ou Street 4.
C'est ça. Ils ont mis quand même des éléments modernes à l'intérieur du jeu. Et le mode online, c'est quand même probablement le mode qui va être le plus joué, j'imagine, avec le versus évidemment local parce que c'est la Switch.
Bah c'est là où ça prend tout son intérêt. En versus local, tu poses. On est dehors, je ne sais pas où, sur la butte Montmartre ou je ne sais quoi. Voilà.
En train de boire un coup
à la terrasse d'un café.
Et
voilà, exactement.
Tu poses ta Switch sur la table.
Et là, il y a un mec qui vient. Hop là, mon gars. j'ai un Blanca. un bobo parisien. J'ai un Blanca.
Et l'autre, tu tapes ton petit street n'importe où.
Ouais, en détachant les Joy-Con.
C'est
ce qu'il y a de mieux, les Joy-Con, pour jouer à Street.
C'est pas la folie.
C'est avec un stick, quoi. Donc bon.
Ah, c'est là que viennent un peu les différences. Moi, j'ai recommencé à jouer à Street Fighter quand le 4 est sorti. C'était génialissime à l'époque. Contre toute attente, j'ai arrêté de jouer avec la croix de direction et j'ai joué avec le stick analogique pour faire mes quarts de cercle, mes demi-cercles, etc. Et je pensais jamais faire ça. J'étais complètement hermétique à cette idée. Et finalement, aujourd'hui, moi, je joue avec le stick analogique. Donc moi, sur Ultra Street 2, sur Switch, ça m'a pas dérangé parce que je joue avec le stick. Par contre, quand tu joues avec la croix de direction qui n'en est pas une, là, franchement.
Bah là, moi, pour le coup, elle m'a pas plus dérangé que ça. Hein. Mes dragons.
Je sais, tu
mes
m'as dit,
doubles,
là, je trouve ça hallucinant.
Tout
je sais
sort,
pas comment tu fais.
Tout sort.
T'as testé la manette Nintendo ?
Ouais, j'ai testé avec le pad pro, bien sûr.
Ouais, mais bien évidemment, mieux avec le pad pro.
Bon, avec le pad pro, c'est sûr, t'as une vraie croix. Bon, c'est pas l'idéal comme un. C'est pas un fight pad, hein, d'accord ? Mais les boutons, en fait, j'ai pas vraiment de problème. Hein.
C'est vrai ?
En vrai, hein. En gros, faire un quart de cercle avec deux boutons.
Toi, t'es quoi, t'es la team stick analogique ou croix de direction quand tu joues avec une manette?
Non, moi quand je joue avec une manette, je ne jouerai jamais un jeu de baston avec le stick analogique, même s'il y a des joueurs de Street Fighter 5.
Oui, justement,
joueurs.
Sur les circuits pro, il y a les deux.
Il y en a un même qui joue avec les deux en même temps. Il joue avec la croix, il joue avec la croix un perso. Et avec Guile, il jouait avec le stick analogique. Ouais.
Ah bon ?
Ah ouais, ils vont très loin, ça va très loin. Mais oui, moi j'ai testé, j'ai un peu de mal avec le. C'est que la croix de la manette pro est pas top, faut attendre la manette Ori qui va sortir sur la Switch, qui va être, je pense, vraiment bien.
Parce que je me dis, s'ils sont intelligents, voilà, ils sortent un Joy-Con code fightpad, quoi.
Ouais, mais il y en a un prévu, il y a même un stick arcade Ori de prévu. Mais moi, quand je joue à la manette, c'est vraiment la croix.
Ouais.
Le D-pad, comme à l'ancienne.
T'as joué à Ultra Street sur Switch ou pas encore des masses?
J'ai testé Ultra Street sur Switch, pardon.
Ultra Street sur Switch.
J'ai joué vraiment un tout petit peu et puis j'avais testé avec la manette Nintendo au D-pad. Franchement, il est cool, ça fait plaisir. Moi, je connaissais le HD Remix, donc honnêtement, je vais pas dire c'est un remake amélioré.
C'est un recyclage à la Capcom. Allez,
à la Capcom, c'est. Voilà, moi j'avais le HD Remix. Il n'y a pas grand chose qui change, à part le monde online qui est cool. Evil Ryu, qui est la nouvelle apparition du jeu. Et puis le côté vraiment ludique, je te dis, t'installes, tu peux jouer avec n'importe qui sur la Switch. Le côté ultra pratique de la Switch, ultra ludique, donc c'est bien. Après, j'y jouerai pas, je vais pas te mentir, je vais pas y jouer des heures et des heures.
Mais avec Street 5, t'as joué beaucoup.
Avec Street 5, mais c'est quand même.
Mais tu trouves ça scandaleux ou tu trouves que ce jeu a sa place aujourd'hui sur une console moderne ou pour toi c'est uniquement de la facilité? Moi par exemple j'étais très heureux de rejouer à Street 2 parce que évidemment c'est un jeu que j'adore, je l'ai découvert en arcade quand il est sorti, j'étais comme un petit fou. C'est des souvenirs qui resteront à vie dans ma mémoire. Mais est-ce que c'est juste ça, juste de la nostalgie? Je saurais pas trop dire. En même temps, quand j'y joue, je sais pas, il y a quelque chose de naturel qui revient et
ça te fait plaisir, quoi.
Et ouais, vraiment, ça me fait bien plaisir. Sûr. Alors, est-ce qu'il est fait que pour les vieux cons comme nous? Je sais pas, comme moi en tout cas. Johnny One, toi par exemple, tu l'as vraiment apprécié. Hein, tu l'as mis 8.
Ouais,
hein,
non, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu.
Il a sa place aujourd'hui.
Il a sa place, bien sûr. Maintenant, après, on est en droit de se poser des questions à côté de est-ce que c'est pas un jeu opportuniste qui est là, qui sort parce que la console vient de sortir, vite il y a une place, il n'y a pas encore de jeu de baston, on va se caler dessus. Et après,
à part le temps, finalement, il n'y a rien qu'empêcher Capcom de nous produire le Street 5 qu'on a sur PS4.
Le Street 5
aussi beau, mais
porter, ouais, ou
ça dépend quel prix. Tu vois, il est à combien là? Il est à 40€,
40 ouais. balles, mais en vérité, il est tu l'achètes sur
si
Amazon à 30
avec...
balles.
Ouais. Si tu veux choper les deux Season Pass derrière, c'est un peu plus cher. Hein.
Faut savoir qu'à l'époque, le HD Remix, comme tu dis, c'est plus cher. Il était sur 360
à 15 balles,
il était à 15€,
15 balles, et là c'est 40.
Là, c'est 40€.
Il profite de l'effet Switch.
Il profite. Bah, après, c'est le débat. C'est aussi le débat de la Switch. Est-ce que ça les vaut? Il joue sur le fait que ça soit console de salon et portable.
Il y a un truc qu'on peut pas enlever. C'est pareil avec Mario Kart. Hein, rien à voir. Mario Kart, évidemment, c'est un jeu de course de bagnole. Mais ouais. Ce sont des jeux qui profitent à mort de l'effet Switch, quoi. Parce que cette console, mine de rien, c'est un concept qui nous a tous tapé dans l'œil au départ.
Ouais.
Et puis maintenant qu'on a les consoles dans les mains et qu'on joue vraiment avec, ce concept, il est extraordinaire. Pouvoir sortir ta console où tu veux, l'emmener chez un pote, jouer, commencer une partie dans le tromé, arriver chez toi, hop, tu le mets sur ta télé, repartir, tu fais ce que tu veux, utiliser les manettes ou partager les Joy-Con quand t'as que ça sous la main et ça fonctionne. Enfin, jouer à Street dans ces conditions, c'est génial aussi.
Ah non, mais c'est le concept de la Switch.
Ça rajoute quelque chose.
C'est une idée de génie. Ils ont mélangé le côté la Wii, le côté ludique, tout le monde peut jouer, le côté entre potes, entre familles. Franchement, c'est absolument super. Moi, j'ai tout le temps critiqué un aspect de la Switch, c'est le côté prix, le côté évidemment, même si on parle pas que le graphisme dans le jeu vidéo, on est quand même en 2017. Pour le même prix, t'as une PS4 et une Xbox One avec des jeux absolument fous comme Uncharted, etc. Proposer une console à 350€ avec quand même une puissance assez minime, c'était un petit peu limite pour moi. Pour moi, c'était le seul défaut, tu vois. Si la console avait été un petit peu plus puissante, j'aurais rien dit. Mais après, le concept, franchement, ils ont cartonné, ça m'a super. Tu reviens, tu switches, tu joues avec tes potes. Franchement, c'est super.
Est-ce que ce jeu a sa place, vous pensez, dans les compétitions e-sport?
Ah, je pense qu'il va y aller. Après, le jeu est resté longtemps, Street 2 et HD Remix, longtemps, il est resté longtemps à l'Evo. Et là, ils sont en train un petit peu de débattre, savoir s'ils vont mettre Ultra Street Switch à l'Evo. Je sais pas. Franchement, il y a tellement de jeux de combat.
Ouais.
Déjà, les jeux de combat, ils ont été annoncés à l'Evo et je pense pas, je sais plus s'il y a Ultra Street. Hein. Je sais qu'il y a Injustice, Tekken, Street Fighter 5, Guilty, tu vois, KOF, il y a tellement de jeux. Après, celui-là, je sais pas. Mais il est très bien, il tourne super bien, franchement, il y a rien à dire. Puis le monde online, d'avoir remanié le truc avec les systèmes de points, ça relance quand même l'intérêt du jeu.
Bon alors,
le truc dont on n'a pas parlé, c'est les modes bonus.
Oui, alors les modes bonus, on va passer vite fait sur les modes bonus.
Voilà, donc t'as un 2 contre 1, tu te demandes pourquoi ils ont pas mis un 2 contre 2 en mode Street Cross Tekken.
Quitte à faire du Portnawak.
Voilà, exactement, quitte à faire n'importe quoi, allons-y à fond. La Switch est une console multi, on la pose, on joue avec tous ses potes, pourquoi n'avoir pas mis un mode A4? Ça aurait pu être marrant. Et enfin, le truc à reconnaissance de mouvement, ça c'est une vaste blague.
La voix du Advo, c'est ça?
On va faire un live en direct sur
ça marche pas.
Ok, enfer.
Vous avez des problèmes de reconnaissance, ça marche pas.
Franchement, je faisais un chariot, ça me faisait un tas de
C'est horrible.
Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour le délire en plus, mais bon.
Non, c'est vraiment pas pour ces nouveautés finalement, c'est ça qui est un peu.
Non.
Triste.
Et du coup, le jeu, ouais, coûte un peu cher, moi, je trouve, hein, franchement.
Voilà, c'est ça. À 20 balles, tu vois.
Ouais, 20 balles, tu dis rien. Et justement, alors c'est ça, tiens, je rebondis là-dessus. Donc, il y a pas mal de gens qui ont commenté la note, justement, tu vois, sur le.
Oui,
sur
tu
le
as
test.
Mis 8 sur 10.
Voilà.
8 sur 10, c'était.
Voilà. Parce que le jeu est un très bon jeu, tu lui mets la note qu'il doit avoir, voilà. Mais maintenant, il faut aussi être un peu critique à ce niveau-là et se poser la bonne question.
Il faut être malin, quand on lit ton texte entre les lignes, attendez peut-être un retour dans les boutiques d'occasion.
Voilà. Parce que justement, tiens, ça, je le redis, justement, je l'ai dit dans le test, c'est en gros les jeux qui sortent sur une console au début. Bah, c'est les jeux qu'on retrouve à 5 balles en occasion dans un an. Et par palette de 2. Hein.
Mais voilà. c'est comme Mario Kart, au final, on est content de les avoir.
Ouais. Oui, il faut.
On est content.
Mario Kart, extraordinaire sur Switch, hein, franchement.
Et puis ils savent, très bien Nintendo, etc. Franchement, c'est comme Mario Kart, ils peuvent le vendre à 80 euros.
Ok, ils savent que
ça va se vendre, ils s'en foutent.
Ce, il doit y avoir des limites quand même. Ouais,
oui, c'est vrai.
Mais bon, c'est vrai que.
Ce Sagat Shrek, Shrek, il est démentiel.
Bon, alors il y a quelque chose qui est beaucoup plus joli qu'un Sagat Shrek ou Hulk, c'est quand même Guilty Gear, et ça, c'est le jeu de notre petit Johnny One qui considère humblement que c'est probablement le meilleur de sa catégorie cette année. Alors, Guilty Gear.
Non, attends, Blaze Blue, c'était cette année. Central Fiction.
Blaze Blue, c'était pas en 2016, je sais plus.
Central Fiction, non, je crois que c'est janvier. Hein. Ah, peut-être en Japon en fin d'année. Non,
c'était l'année dernière.
Ouais, je pense que c'était l'année dernière, c'était 2016. Bon.
Parce que t'as une toute petite préférence pour Blaze
Blue,
c'est
moi,
ça
c'est mon... Moi, c'est Blaze Blue.
Bon, alors, Guilty Gear, parce que c'est le jeu qui est dans notre sélection là aujourd'hui, qui sort dans sa toute dernière version, qui s'appelle donc Rêve 2.
Sword Rêve 2.
Voilà.
Sword Rêve 2.
Pour toi, c'est le jeu de baston le plus technique et le plus intéressant.
Ouais,
qui
ouais,
soit.
Là, de toutes les sorties qu'on balaye aujourd'hui, et puis même cette année, quoi, hein, c'est bah, le plus complet, hein, celui qui propose le plus de subtilité. Alors là, pour le coup, celui-là, il n'est pas vraiment accessible, hein, si t'es novice.
Tu t'oublies tout de suite.
Hein. Oui, il est directement technique.
Ils ont mis
la première porte, là, pour le mec qui arrive, qui voit de la lumière, et qui dit
la porte, t'as le pied tout de suite dans la gueule. C'est direct, il n'y a pas de bonjour, bienvenue dans le jeu.
Pour quand tu joues avec ta grand-mère.
Alors on va t'expliquer comment.
Mais Johnny allait dire quelque chose, oui, sur le tacticiel.
Pour quand tu joues avec ta grand-mère, t'as quand même un mode stylish. Alors ça, c'est un truc qui existait déjà dans Blaze Blue depuis le premier, qu'ils ont ajouté sur Revelator, donc sur l'épisode d'avant, où en fait, en gros, tu peux bourriner les boutons un peu n'importe comment et ça va te sortir
des
combos. Ouais. Ouais, ça va te sortir des trucs de ouf.
Pif quoi.
Ouais, ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui connaissent pas les jeux de baston, parce que du coup, ils vont quand même pouvoir un peu jouer à Guilty. Mais bon, ça va pas aller très très loin. Non, après,
vraiment aimer se mettre sur un perso pendant des heures.
Voilà. Après, si on est novice, on a quand même, moi je trouve qu'en termes d'accessibilité, c'est peut-être le jeu qui est le plus accessible. Pas le plus accessible parce qu'il est quand même très très
c'est
dur,
moins accessible.
Mais c'est celui qui te prend le plus par la main. Voilà.
Oui,
c'est-à-dire t'as des didacticiels qui sont assez oufissimes, hein.
C'est des vraies notices.
Ouais, voilà. En gros,
on
te fait vraiment faire les trucs, on te les fait répéter, etc. 40 fois. On t'explique ce que c'est qu'un console, on t'explique quand est-ce que tu vas pouvoir le caler. Ensuite, t'as carrément des tutos de par personnage, c'est-à-dire la technique avec ton personnage, ça va plutôt être de faire ça. Et t'as même des techniques de match-up dans le tuto. C'est-à-dire, en gros, tu prends Ino, comment est-ce que tu vas faire pour jouer contre Didier.
Ils apprennent à jouer contre un personnage en particulier.
Ils t'apprennent une ou deux techniques de match-up. Quoi. Alors, si t'as tel perso, ça va être efficace contre un tel. Donc ça, franchement, bah, c'est simple. Hein, ça n'a gêné. Jamais vu ça ailleurs. Même Blaze Blue Central Fiction, qui est sorti après Revelator, donc la version d'avant sur Rêve 2, même Blaze Blue Central Fiction, c'est marrant parce qu'il reprenait un peu le HUD de Guilty, mais il proposait pas autant de prise en... pas de prise en main
de
prise par la main du joueur, voilà.
Ouais, mais tu vois, Johnny, ils sont obligés parce que franchement, s'ils font pas ça, le jeu, personne va l'acheter. C'est un jeu quand même ultra élitiste, oui. Et même avec tout le didacticiel, t'as raison, il est extrêmement bien fait. C'est vraiment ultra
pour les pros, quoi. Vous avez...
Ah, c'est non, mais ça, c'est au-dessus de en jeu 2D. C'est il y a Blaze Blue aussi qui est très compliqué, ouais. Mais en jeu 2D, c'est le plus.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui rend le truc si compliqué? Je crois qu'il
t'as
faut
un milliard de
subtilités. Tu casses tes propres mouvements, hein, c'est ça.
Bah, t'as l'histoire du console, mais ça, à peu près tous les jeux le font, ouais. Même dans Injustice, histoire de cancel, c'est une des mécaniques centrales, ouais, du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas interrompre ton combo pour placer ton ultra au milieu, voilà, pour être sûr de pouvoir le placer et pour pouvoir être sûr de pouvoir enchaîner sur un deuxième combo qui aurait été normalement impossible. Puis à côté de ça, tu vas avoir plusieurs états dans ton perso. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Subtilités, tu en as, mais
t'as des couches de machin.
Voilà, tu peux vraiment creuser très profond en termes de voilà, qu'est-ce que l'adversaire me lance ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour répondre, et tu vas avoir plusieurs solutions possibles qui vont avoir plusieurs effets différents forcément, voilà. Donc non, c'est extrêmement complet, je pense que c'est le plus complet de tous.
Et il y a un truc, c'est surtout le plus beau de tous,
on
n'a pas encore parlé, mais pour moi le vrai truc qui caractérise pour moi à la fois les Blaze Blue et les Guilty, c'est la réalisation, c'est un dessin animé qui prend vie.
Blaze Blue reste en 2D 2D pour l'instant, mais ce qui est assez fou avec c'est de la 3D, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, quand le jeu a été annoncé, j'ai dit waouh, il est magnifique, et quand j'ai vu que c'était de la 3D, j'ai fait waouh, mais c'est complètement fou quoi. Et quand ils ont rajouté, déjà dans le premier c'était dingue, les intros de personnages, ouais, les finishes, même la fin d'un round, il y avait un seul coup, c'était le launcher qui faisait un peu tourner la caméra, mais là quand tu vois que dans Revelator et dans Rev 2 ils ont rajouté des effets de caméra pendant les combats, genre la caméra elle commence, elle est dessus, elle vient se placer à côté du perso et tout, non c'est complètement
t'as vraiment l'impression de jouer magnifique, de voir un animé, de jouer avec un animé. Exactement. Quand tu joues ce jeu, c'est le plus beau jeu des jeux 2D de l'histoire, il est absolument fabuleux.
Non c'est il est juste magnifique graphiquement, c'est une autre tuerie,
mais voilà, réservé quand même à un public averti.
Ouais voilà, il faut dire, savoir dans quoi on investit là, ouais. C'est sûr.
Alors ils sont pas sortis cette année, mais King of Fighters 14 et Street Fighter 5 là dedans malgré tout, Street Fighter 5 est sorti quand même pas complet. Il est devenu complet au fil du temps, et même encore cette année il y a eu des nouveautés.
Il y a eu 6 persos encore cette année, c'est ça, non?
Il y a eu 6 persos, il y a un patch qui arrive demain.
Finalement, ouais, c'est comme s'il sortait complet aujourd'hui.
On a eu le story mode.
Donc considérons-le, parce que c'est ton jeu.
C'est un nouveau jeu.
Voilà, c'est un nouveau jeu.
C'est un nouveau jeu.
Non, mais en gros, pour éclairer un petit peu les gens qui nous écoutent et qui se disent mais putain, mais je vais acheter lequel, c'est trop compliqué. Tout a l'air bien quand on vous écoute. Ils ont tous l'air d'avoir des vraies qualités. Est-ce que Street 5 reste le patron?
Franchement, ouais, on va dire oui. Il est très critiqué. On va dire il est très critiqué parce que oui, quand on l'a dit, il est sorti. Il y a un mode versus. Le jeu il coûtait 70€ et le jeu il est pas fini. Franchement, c'était scandaleux. Et parce que nous, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout de l'histoire. On est joueur pro, on est entre communautés. Avec le versus, ça nous va.
Il manquait tout quoi.
Mais oui, mais quelqu'un qui veut acheter le jeu et qui veut faire mode histoire, il y avait rien. C'était scandaleux. Aujourd'hui, bon, le jeu est plus complet. Le online va mieux marcher d'ici dès demain. Il marche déjà bien, mais il sera déjà mieux. Il y a plein de persos et voilà, c'est le jeu Street Fighter 5. Tout le monde y joue. C'est le jeu le plus connu, c'est le jeu le joue en tournoi.
Est-ce que c'est pas celui vraiment parmi tous ceux qu'on a cités qui a vraiment qui peut être dans la fameuse boîte d'accessibilité et dans l'autre en même temps quoi.
Je pense que tu me rejoindras, il est beaucoup plus accessible qu'un Street Fighter 5 et encore plus accessible qu'un Guilty Gear. Donc c'est le jeu 2D on va dire le plus accessible aujourd'hui.
Et pour autant extrêmement technique.
Et pour autant quand tu joues au niveau et la profondeur de jeu, de réflexion, du gameplay,
t'as pas autant de profondeur que dans un Guilty, mais t'as vraiment de quoi faire.
Est-ce que ce qu'on appelle le mind game est plus est plus fort dans un Street que dans un Guilty qui est ultra technique par exemple?
Ça va dépendre.
Le mind game en gros c'est essayer de tromper l'adversaire sur ce que tu vas faire quoi.
Voilà, c'est en gros tu l'attends dans un coin et vas-y viens, et selon ce que tu vas me proposer, moi je vais mettre autre chose en face.
Tu vas faire un coup, moi je vais penser que tu vas en faire un autre, puis en fait je vais en faire
un. C'est un peu comme aux échecs quand tu essaies d'avoir un coup
d'avance.
Exactement.
Mais on compare souvent le jeu de baston aux échecs à grande vitesse, et Street Fighter 5 c'est un jeu basé vraiment sur l'attaque. On dit d'ailleurs que c'est un jeu d'américain parce que pour la première fois les américains sont entre parenthèses plus forts que les joueurs asiatiques. Mais c'est un joueur qui est basé vraiment sur l'attaque à fond, faut des réflexes.
Enfin, tu dis ça mais au Red Bull Comité, c'était une finale japonaise.
Ouais, mais les deux meilleurs américains n'étaient pas là.
Ah,
mais bon,
là.
Voilà.
Ils sont pas venus,
non, ils avaient un autre tournoi.
Avant, ils avaient des vidéos à rendre,
ils étaient là,
les piscines.
Ils s'en foutaient. Mais non, c'est un jeu à la fois très très accessible, beaucoup plus que le 4, mais ultra profond, et puis tout le monde y joue. Voilà, c'est Street Fighter 5, quand tu parles de 2D, jeu de baston aujourd'hui, 2D,
c'est le maître. Mais après justement c'est une question qu'on peut se poser aussi, quand on avait fait la Coupe de France de Street, en gros tous les joueurs à qui je posais la question, il y en avait un sur deux qui me disait moi je me suis mis à Street 5
parce que
c'est Street 5 et parce que c'est le jeu de tournoi et parce que c'est celui auquel tout le monde joue quoi, tu vois ce que je veux dire. Il bénéficie d'une espèce de
d'aura
autour de lui,
indestructible quoi.
Ouais voilà, exactement.
Les gens ils sont mis dessus par défaut, c'est ça que...
Exactement.
À l'époque il y avait rien.
C'est clairement pour ça que Capcom l'a sorti
un peu dans une fenêtre easy quoi.
Et heureusement, parce que vu la gueule du jeu et vu le jeu qui n'était pas complet, franchement, et encore là, il se vend un peu plus, mais franchement, il s'est pas vendu.
Mais là, aujourd'hui, il est complet.
Aujourd'hui, il est complet, mais comme dit John, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce jeu, mais au final, ils y jouent. Et c'est juste que le gameplay a un style différent. C'est juste que c'est des grands fans de Street Fighter 4 qui retrouvent pas ce qu'ils aimaient dans Street Fighter 4. Du coup, ils critiquent ce qu'il y a dans Street Fighter 5. Moi, après, personnellement, j'ai pas beaucoup joué à Street 4. Je préfère Street 5. Je trouve que c'est un jeu beaucoup plus basé sur l'attaque, beaucoup plus spectaculaire.
Il est plus nerveux.
Il est plus nerveux. Street 4, des fois, toute la journée, t'étais là zoné à l'autre bout de l'écran. La Street 5, tu rentres dedans. T'y vas. Alors oui, oui, des fois c'est un peu plus accessible, oui, des fois c'est, et c'est normal aujourd'hui, le jeu vidéo, oh bah, que ce soit le Versus ou ailleurs, c'est beaucoup plus grand public. T'es obligé, tu peux pas faire des jeux tout le temps comme Guilty Gear.
C'est sûr que
sinon on t'en vend pas.
Sinon j'ai les lag sur ce jeu, ouais, il a voilà. c'est plus des fenêtres, c'est des baies vitrées complètement grandes ouvertes. Ouais, ouais.
Ouais, ça c'est, alors ça je, c'est un peu la bêtise. Ils ont mis dans ce jeu ce qu'on appelle un input lag, c'est-à-dire que t'as un temps de latence de base. Quoi qu'il arrive, même si tu joues offline.
C'est pas dépendant de ta télé, non, ou de ta connexion internet.
T'as un temps de latence de base, c'était pour s'adapter online, pour faire. De quoi, ouais.
Enfin, ouais, aussi la fenêtre, tu sais, dans laquelle tu peux placer tes coups. Et beaucoup,
ah oui, t'as le temps.
Beaucoup,
ah non, mais t'as le temps.
Tu peux aller te prendre un café, limite, ah, entre, ouais, ouais. entre deux ultras.
Non, mais c'est accessible vraiment pour le jeu, mais après, vraiment technique, tu joues contre un joueur plus fort. Tu le sens tout de suite passer, hein. C'est du street, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Mais super, c'est le jeu incontournable, c'est le jeu en compétition, t'as un circuit Capcom Pro Tour à jouer dans le monde entier avec des milliers de dollars, tout le monde y joue, donc ouais, c'est, il est critiqué, mais c'est le jeu de baston le plus joué jusqu'à Tekken 7 en tout cas.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que Tekken 7 va foutre un peu la merde là-dedans, justement?
Bah, il y a des chances un petit peu.
Il peut, faudrait. Tekken 7, faut savoir qu'à l'époque de Street Fighter 4, Tekken 6 c'était le jeu de baston le plus joué au monde. Il était beaucoup plus joué que,
ah bon,
que, ouais, que Street Fighter 4 jusqu'à une période de Street Fighter 4, jusqu'à Super Street Fighter 4.
Jusqu'à Super.
Ouais, Tekken 6 c'était la référence ultime en arcade partout. C'est Tekken, c'était
Et dans les tournois aussi.
Et dans les tournois partout. Après, Street a pris le dessus vraiment à fond les ballons et Street s'est envolé. Là, Tekken 7, comme je le dis, c'est le Tekken nouvelle génération sur nouvelle console. Ils ont annoncé quelques jours le Tekken Pro Tour. Donc c'est un petit peu le Capcom Pro Tour sur Tekken. Et il y a déjà eu plein de tournois. Tous les joueurs sont hypés. Est-ce que ça va détrôner Street? Street est quand même bien bien ancré dans la communauté des jeux de combat. On va voir.
Après, peut-être que les gens qui nous écoutent rincent Street comme tous les fans de baston depuis un an.
Ouais.
On va dire en gros, si on veut de la technique, vraiment aller vraiment plus loin dans le jeu de baston, ton petit chouchou est,
voilà, ce sera Guilty.
Ouais.
Ou Blaze Blue.
Voilà.
Et si on veut une espèce de remplaçant de Street, à la fois accessible et technique, impressionnant, jouer en tournoi, plus immédiat, etc., Tekken s'annonce quand même comme le nouveau, le new challenger. Quoi.
Franchement, je te dis, tous les joueurs de Street, moi j'ai jamais
envie de passer à Tekken.
J'ai jamais eu ça. Normalement, tu as toujours les deux communautés. Il n'y a pas un joueur de Street qui me dise, oh là là, Tekken 7.
Tout le monde en a marre de Street
moi.
5.
Ouais, tout le monde en a marre, tu vois. Mais, et puis le jeu, je te dis, Tekken 7, il est tellement complet. Enfin, il a l'air tellement complet. Puis il reprend un peu toutes les bases de tous les jeux de baston qu'on a vu. Donc voilà. Puis en jeu de baston 3D, c'est le seul aujourd'hui. Soul Calibur, bon, c'est terminé jusqu'au prochain.
Bah ouais, on espère en voir un 6 peut-être après là.
Et puis prépare, je pense, un 6, 7. Mais pas tout de suite.
Ouais.
Donc, 5 d'un coup là, c'était déjà pas mal pour le mois de mai.
Ouais. Franchement, il y en a rarement vu ça, ça fait plaisir.
Bon, dans tous les cas, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce premier sujet et on a pris beaucoup de temps. On va essayer d'augmenter un peu la cadence pour les deux autres thèmes qui nous restent. On va parler rapidement peut-être du gros fait d'actualité de la semaine. C'est évidemment Far Cry 5 qui a été annoncé officiellement avec plusieurs vidéos. Hein. C'était assez. Ça a commencé avec les décors du jeu qui nous ont été dévoilés avec des vidéos où on voyait des cadavres ou un mec qui tapait la tronche d'un autre sur une cloche d'église, etc. Assez mystérieuse, mais qui au moins montrait que c'était pas au Far West comme il y avait eu un peu dans les rumeurs à droite à gauche, qu'on était un peu dans une
c'est un décor de Far West, mais c'est pas du
au départ sur cette première vidéo qu'on voit là, oui, là où tu vois passer le cadavre, mais sur les autres on voit plus que c'est contemporain déjà. Ça a été suivi de la fameuse image géniale, je trouve, la scène de Léonard de Vinci adaptée, voilà, revisitée avec des espèces de tarés autour d'une table de chasse avec des armes, voilà, c'est cette image que
les suprématistes blancs
que nous montre Poufy, est extraordinaire.
c'est les mecs qui ont voté Trump, ça.
Ouais, c'est ça. Bah, je la trouve géniale cette image. Et puis a suivi finalement la vraie bande annonce, celle qui t'en mettait plein la gueule et qui te disait bon bah voilà, il y a pas de doute, c'est Far Cry, avec tous les codes de Far Cry.
Bah, pour le coup, la recette reste la même, quoi. C'est monde
la recette,
ouvert,
c'est la même. On voit
monde
tout
ouvert, véhicule, armes et tout ça dans un beau décor et voilà.
Ouais, puis côté bac à sable, tu sens que tu vas pouvoir alors, on voit qu'on va pouvoir piloter des avions, des bateaux,
craft, machin, ouais.
Des pick-up. Là, on a vu, il y a des espèces de buggy, des poids lourds. Et puis, ce côté monde ouvert où tu vas pouvoir faire joujou un peu façon bac à sable avec des explosifs. Regarde, tu vois, il y a de la chasse.
Bah, de toute façon, maintenant, Ubisoft, c'est ça, hein, c'est leur ligne directive. Ils l'ont annoncé.
Oui, c'est
il y a
le bac
un
à sable, vraiment.
C'est le bac à sable avant tout. Ils avaient dit un jour.
Systémique, on dit aujourd'hui pour être
voilà,
plus
systémique.
Oui, les jeux systémiques, c'est des jeux un peu comme Breath of the Wild. La différence entre Breath of the Wild, Zelda donc, et Horizon par exemple qui est sorti sur PS4, c'est que Zelda est beaucoup plus systémique, c'est à dire qu'il va rien te dire exactement, mais à chaque fois que tu vas vouloir expérimenter un truc, il y aura un résultat qui va te faire oh putain, quand je prends le feu et que je le mets là, ça fait ça. Et systémique, c'est quand tous les éléments servent les uns aux autres dans un univers cohérent. Et que,
donc, voilà. Monde ouvert n'est pas forcément systémique.
Bah, tu peux être un monde ouvert sans être systémique.
Parce que GTA est un.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Mais on verra sur ouais. le prochain. Mais okay. Sur
GTA, Redemption. C'est hyper scénarisé quand même. Enfin, il y a quand même une grosse partie.
Zelda est vraiment systémique à fond la caisse. C'est un peu cette nouvelle tendance. Effectivement, Ubi veut s'approcher de ça. Voilà, alors qu'on voit des vaches courir à l'écran.
Mais on sent que depuis The Division, techniquement, c'est. C'est juste bluffant quoi. Le travail qui est effectué sur Ghost Recon Wildlands, etc. Enfin, on sent qu'il y a vraiment eu des grosses analyses, des mecs qui sont partis là-bas, qui ont pris des belles photos, etc., qui ont essayé de reproduire les choses un peu à l'identique, et ça se ressent, mais tellement, c'est juste impressionnant visuellement.
Puis ils rajoutent des couches à chaque fois, là. Cette fois, on va avoir à nouveau les véhicules, les armes, les explosifs, machin.
Chaque fois, c'est
et les animaux aussi, truc, tu vas pouvoir chasser, et à la fois dresser des animaux pour les utiliser,
ça, c'est déjà le cas dans les autres, mais. Far Cry, ça a toujours été un peu ça. Depuis qu'ils ont rajouté les animaux qu'on peut dresser à partir du. Je pense que c'était le 3, il me semble. Enfin, qu'on ne peut pas les dresser, on pouvait les utiliser. On pouvait par exemple balancer un leurre, balancer un bout de viande sur un ennemi. Du coup, s'il y a un animal sauvage à côté, il allait se jeter dessus. Là, on ne sait pas encore si ça va être vraiment du dressage pur, comme c'était le cas dans le dernier, donc Far Cry Primal, ou si ça va être juste du leurre.
Et là, on est en train de voir à l'image le dernier effet qui se couche. C'est-à-dire, après le trailer, on nous a montré des personnages qui luttent contre. Parce que bon. On n'a pas trop refait le truc parce que tout le monde a suivi un petit peu ce qui s'est passé, mais en gros c'est une secte, fin du monde, etc.
Une secte religieuse.
Religieuse, voilà.
Et à mon avis, je sais pas ce que t'en penses du lot, mais c'est un jeu qui risque de faire parler, surtout aux États-Unis.
Bien sûr.
Pas forcément à mon avis, il va y avoir
des liens avec. Enfin, je veux dire, des
lobbies qui risquent de.
Tu penses à la scientologie, ce genre de truc.
Tout ça, oui. Enfin, même je pense que l'église traditionnelle risque de voir d'un mauvais œil certains points. Enfin, on. À travers l'abondance, on peut pas en voir.
Attends, le pasteur, comment il s'appelle ? Le pasteur. Pasteur Jérôme, on voit. Pasteur Jérôme prend un fusil à pompe et un gilet pare-balles pour aller fusiller les mecs de la secte.
À mon avis, il risque d'avoir des choses à redire là-dessus.
Est-ce que Donald Trump va streamer ?
c'est possible. C'est possible.
C'est ça la question. Sur Twitch, en live. Non, mais c'est vrai que moi j'adore l'univers.
Donald Trump The Game.
Donald Trump Adventure. Mais ça, l'univers redneck américain, moi je trouve ça absolument fabuleux.
C'est vraiment l'Amérique profonde.
Surtout que Far Cry, c'est toujours un méchant qui est complètement taré et qui a de la gueule, etc. Bon, plus ou moins selon les épisodes, mais là je pense qu'il va être énorme celui-là.
Ouais. Voilà. Franchement, on voit vraiment le côté la mode du côté monde ouvert. C'est depuis, on va dire, GTA. Franchement, tout le monde veut faire un monde ouvert.
Moi, ça me gonfle un peu.
Moi j'aime bien. Je sais que le dernier Assassin's Creed, apparemment, les rumeurs, ils disent que aussi ça s'approcherait aussi d'un Skyrim, de vraiment un monde ouvert encore plus poussé. Donc on voit que tout le monde veut faire ça, sans compter de Red Dead, etc. Donc toi, t'aimes pas trop
Je trouve ça, dans la plupart de ces jeux, je trouve ça assez gadget en fait. Au final,
t'es pas hypé par exemple parce que t'as vu sur Far Cry 5 toi?
Non, franchement. Moi, Far Cry, la dernière fois que j'y ai joué, c'était Blood Dragon. Et malgré tout le fun qu'il peut avoir, j'ai tenu une heure et demie. Quoi.
Ah bon ?
Quand j'ai vu qu'il fallait que je monte en haut des tours pour faire apparaître la map.
C'est Ubisoft présente, c'est un peu ça. Les jeux Ubisoft, c'est toujours
bon,
ça.
Voilà, quoi, tu vois, ça m'a saoulé en fait.
D'ailleurs, avec Zelda sur Switch, il y a pas mal de gens qui disaient: ah, un bon jeu Ubisoft. Est-ce que tu grimpais sur
Ouais, tu grimpais sur le truc, exactement.
Si c'est pas un vrai bac à sable, un monde ouvert, pour moi, ça sert à rien en fait. Si c'est juste aller du point A au point B, bah non.
GTA, c'est un
mets-moi sur les rails et ce sera aussi bien quoi.
Et alors, je pense qu'ils ont pris aussi expérience des jeux récents qu'ils ont fait quoi. Je reparle de Ghost Recon Wildlands parce que c'est vraiment le dernier gros jeu à monde ouvert qui a été fait. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs et
aucune personnalité. Moi, depuis le début, je le dis, depuis qu'il a été annoncé, je dis c'est un mélange de tous les jeux Ubisoft, Ghost Recon Wildlands.
Du coup, j'ai même pas eu
envie d'y jouer.
C'est pour ça que je pense qu'ils ont pris vraiment conscience de leurs erreurs et qu'ils peuvent nous fournir cette fois. Donc, d'autant que le jeu n'est pas prévu pour tout de suite, il est prévu pour février.
Ça va super beau. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette cinématique, elle déglingue la gueule.
C'est, je suis en train de dire ça tout à l'heure, je dis on avait quand même évolué depuis la PlayStation 1.
Le pasteur là que tu vois à un moment, t'as un plan où tu vois à l'intérieur de ses lunettes avec un peu de poussière sur les verres, sa peau ultra bien faite.
Une version alpha quoi. Le jeu sort dans un an.
Non, mais c'était les cinématiques en l'occurrence.
Les cinématiques, ils sont forts. Voilà.
Est-ce qu'on sait si ce sera la même map toujours?
Il est chafouin.
Il a pas envie. Hein.
Il a pas envie de. Non, mais il rigole, mais il y avait eu, je sais plus, une idée comme ça, comme quoi la map de Far Cry Primal était la map de Far Cry 4.
Ah, mais il y avait des mecs qui avaient superposé.
Il y avait superposé, effectivement, il y avait des points communs.
Il s'était passé un an entre Far Cry 3 et Far Cry 4.
Genre, les mecs, ils font un jeu.
Là, ils pouvaient jouer au mystère parce que c'était. C'était l'époque des hommes préhistoriques, ouais, mais là, ouais, là, on est en plein Montana, on change vraiment pour le coup de, d'ambiance, ouais, d'ambiance quoi.
Bon, en tout cas, moi, qui suis pas forcément un fan de Far Cry, j'ai été, ouais, hypé par le nouveau thème quoi.
Moi aussi, exactement.
Les redneck, déjà il y a le côté secte, je trouve ça fascinant aujourd'hui, hein, dans le monde dans lequel on vit. Les sectes religieuses, fin du monde, etc. Et le côté tout ça dans un truc, dans une ambiance redneck
américaine,
aux États-Unis.
Ouais.
Je pense que
si vous
on n'a pas encore vu le méchant, mais je pense que quand on va le voir, on va
se marrer.
On va se marrer. Ouais.
Si vous voulez du bouseux aujourd'hui, hein, vous avez
Outlast 2.
Ouais.
Il y a du bon bouseux là.
Ouais, il y a du bon redneck.
Bon, alors qui est chaud? Moi, je suis chaud.
Ouais, moi je.
On est 3 bah, contre 1.
Je suis comme
toi, on a gagné.
Je suis pas fan de Far Cry généralement. Enfin, moi, mon vrai Far Cry c'était le 1, le premier à l'époque.
Oui.
Les Delta Plan et tout. Et franchement, bah, on n'est jamais déçu. Et celui-là, franchement, il me hype plutôt pas mal.
Non, mais en plus, on aura beau dire, malgré les défauts, il y a toujours ce plaisir vraiment de découvrir un vrai monde ouvert. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que tu prends le chemin que tu veux, même si c'est pas forcément. Même s'il y a des problèmes.
Ça, on verra hein, si la qualité du monde ouvert est bonne.
Ouais,
en tout cas, pour l'instant, on peut juger.
C'était
que
déjà
vraiment,
le cas dans les autres Far Cry. Enfin, même
les défauts. Far Cry 2, moi, je me suis fait chier.
Far Cry 2 ?
Ah ouais, c'était
ah oui,
énorme,
mais Far Cry 2, il avait des défauts particuliers.
Le 3 pareil derrière, le 3, enfin, j'ai pas tenu longtemps quoi.
Bah après, c'est un style de jeu bien différent et je comprends que une certaines catégories joueurs n'aiment
non,
pas.
Non, mais il y avait Guilty Gear qui venait de sortir.
Ouais,
et
Blaze Blue.
Vous pouvez pas, il y avait Blaze Blue, Guilty Gear.
Bon, on est bien d'accord, le patron des mondes ouverts, ça reste GTA 5.
Oui. Bien sûr.
Pour moi, c'est la légende. La légende.
Allez, Camille, on va compter sur toi pour nous parler d'un autre jeu
qui n'a rien à voir,
qui est pas du tout, voilà, qui est un peu sous les radars par rapport à Far Cry 5 ou tous les jeux de baston dont on a parlé avant. C'est Steel Division. C'est un jeu PC, purement PC.
Steel Division Normandie 1944 pour être précis.
Oula.
Voilà, ça pouvait que te plaire. Déjà, c'est le thème de la Seconde Guerre mondiale.
Et du coup, t'aimes bien la Seconde Guerre mondiale.
C'est un historien.
Tout ce qui est histoire, moi j'adore ça. Et la Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup les jeux qui s'y passent. Puisque de toute façon, oui, Call of Duty, t'allais me. Non,
non, point commun, j'aime aussi.
Ah bah voilà.
Et tu sais comme qui? Tom Hanks et Spielberg sont passionnés par la Seconde Guerre mondiale.
Bah, voilà. Je connais un mec qui collectionne les tenues de soldats de la Seconde Guerre mondiale.
Il est allemand?
Il en a. Non, il a des tenues allemandes, des tenues françaises,
ah bon
etc. D'accord. Des vrais.
Tu peux trouver des vieux képis, des trucs comme ça là, au Kiliwatch
à Montparnasse?
Non, c'est à Châtelet, je crois.
T'en as à Montparnasse?
Watch,
t'as une boutique comme ça et
après,
j'ai vu Obispo dedans.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. J'ai le truc à avoir.
Déguisé en Asie, non?
Ouais, il venait chercher son dernier casque allemand.
Vous n'aurez pas ma liberté de penser.
C'est pas ni ça.
Ça,
ah oui, merde.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Ah, le mec, il s'y connaît à mort en variété française. Bon, c'est pas grave. Il y avait Fanny aussi.
Mais
il
était là aussi.
Il était
venu après.
Bon, bah, excuse-nous, désolé.
Mais du coup, ouais, Steel Division, c'est un jeu quand même attendu par la communauté des joueurs de jeux de stratégie. Alors, c'est un jeu qui est uniquement PC, il faut le savoir. C'est développé par Eugène System, donc le studio français qui était déjà derrière la série Wargame et qui avait fait Ruse il y a un certain nombre d'années.
C'était pas mal, Ruse. Hein.
Ouais.
C'est celui que tu commandais à la voix, c'est ça?
Exactement.
Ouais. Ouais.
Et du coup, c'était pas la feature la plus importante finalement. En fait, le gros point fort de ces jeux, c'est vraiment le moteur Iris Zoom, donc qui a évidemment énormément évolué depuis le temps, qui permet de zoomer genre sur un buisson et de dézoomer, avoir une carte de campagne comme si un général avait ça sur ta table en fait. Mm-hmm. Donc c'est vraiment
comme
cet esprit
là. Bentley, je sais pas si vous avez vu ça.
Non, j'ai pas vu.
Une caméra 50 millions de pixels, je sais pas quoi, tu vois une image qui filme de très très loin, c'est le pont de San Francisco, je crois, je sais plus lequel.
Et
qui zoom, et là il s'approche de la voiture, tu vois super bien, et dans la voiture, il zoome sur le siège et là tu vois le petit logo Bentley dans le cuir.
Ah, ça fait
incroyable. Bon, bref, c'était une digression.
Voilà à quoi ressemble la carte pour ceux qui sont premium. À quoi ressemble la carte des zooms au maximum.
Voilà,
et du coup, ça permet d'avoir une vue d'ensemble assez impressionnante.
Bah là, tu vois pas les unités, les trucs comme
non,
ça.
Non, on voit les unités sous forme de carte en fait. Quand on est vraiment dézoomé, on voit simplement des petits logos, des petites cartes. Et quand on zoome totalement, on peut voir ces unités modélisées
en 3D,
en sachant que chez Eugène System, il y a beaucoup de fans de maquettistes. Et du coup ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Alors le cadre historique est assez précis puisque c'est vraiment la campagne de Normandie, donc ça, on jouera pas le débarquement, mais on joue le tout après débarquement, donc vraiment quelques heures après, jusque voilà à l'arrivée
à la libération de Paris.
Non, il n'y a pas la libération de Paris, c'est vraiment vraiment axé sur la Normandie, et à tel point que toutes les maps qu'on peut voir là, par exemple la map qu'on peut voir à l'écran, c'est une vraie vue cartographiée de l'époque, puisque en fait
ils avaient des satellites à l'époque.
Ils ont reproduit à l'identique en fait les cartes des avions de reconnaissance. Et du coup, ce sont. On peut même superposer les photos en noir et blanc de l'époque. Bah, d'ailleurs, quand je suis allé voir les petits gars de chez Eugène, ils m'ont montré ça. On peut s'amuser à superposer.
Ils sont à Paris, Eugène System.
Ils sont à Paris, ouais. On peut superposer une photo en noir et blanc donc, d'un avion de reconnaissance américain de l'époque. Ou,
avec leur map. Et
avec leur map, et ça se coïncide. Chaque route, chaque village, chaque buisson, chaque. Voilà, le bocage normand. C'est aussi ça qui fait l'intérêt du jeu, puisque on va tout un système de guérilla. On va devoir jouer avec la topographie du terrain. On doit pouvoir prendre en compte les angles de vue, la ligne de tir, etc. Ce qui fait que on peut savoir ce que les unités ennemies voient, et on peut savoir évidemment ce que nos propres unités voient. Et il faut jongler sans cesse avec ça pour savoir si je suis à portée d'un char ennemi, si je suis à portée d'une unité d'infanterie ennemie, si ma propre infanterie peut viser le char ennemi qui est dans le petit village, etc. Alors il y a beaucoup de, c'est assez rural en général puisque c'est vraiment le bocage normand, mais aussi certaines villes. Apparemment il y a Caen. Alors j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu cette map, il me semble.
Là t'es en train de faire le test. Hein,
je suis actuellement en train de faire le test et ça s'annonce.
Qui arrivera normalement cette semaine, ouais. Là, mais alors où on enregistre cette émission, t'es pas encore tout à fait. Cela dit, tu m'as dit tout à l'heure quand on préparait l'émission,
c'est un
des meilleurs jeux de stratégie.
Exactement, c'est vraiment un très très bon jeu de stratégie à bien des égards. Déjà tout simplement pour son cadre historique retranscrit vraiment, mais c'est vraiment
à l'identique, quoi.
C'est à l'identique, ouais. C'est on peut en fait c'est mélangé avec un peu un système de cartes, ce qui fait que c'est que des divisions historiques qu'on va jouer. Donc on a la 2e DB française par exemple, ce qui est plutôt agréable à souligner. On a voilà les unités canadiennes, les unités américaines.
Enfin, Battlefield, il y a les Français voilà. dans la Seconde Guerre mondiale.
Enfin
on est là quoi.
Et du coup c'est des unités vraiment historiques, et on peut former en fait son deck d'unités. On va avoir un mode qui s'appelle c'est la formation de deck. On va avoir une sorte de vision d'ensemble d'une base militaire, et on va pouvoir choisir, piocher ses unités militaires. Alors il faut savoir bien jauger, parce que si on prend que de l'infanterie, du coup on va avoir problématique par rapport si l'ennemi a trop de blindés, etc. On va pouvoir comme ça jongler avec toutes ces unités. Il faut savoir aussi son pote, ce qu'il va jouer, puisque c'est un jeu, malgré sa campagne solo, c'est un jeu, donc il y a une campagne multijoueur, enfin une campagne solo qui est côté allemand et côté américain, mais évidemment la 80%, non, peut-être pas 80, mais 60% du jeu, ça va être du multijoueur.
Ouais, okay.
Donc il faut savoir aussi discuter avec son pote, enfin avec les potes, il faut savoir discuter même avec l'ennemi, savoir ce que.
C'est pas du 1 contre 1, alors t'es vraiment.
Ah non,
alors, on peut jouer.
Il y a du 1 contre 1, il y a du 2 contre 2, du 3 contre 3, ouais. Ça va jusqu'au 8 contre 8, il me semble.
Ça va être fou en 8 contre 8, c'est vraiment.
Ah non,
la guerre,
mais c'est. Après, il y a des maps qui sont gigantesques, c'est assez incroyable. D'autant qu'en plus il faut jongler déjà avec ça, et comme vous pouvez voir aussi à l'écran, il y a donc grosse nouveauté dans le jeu de stratégie de Gene System, il y a une ligne de front
voilà, qui progresse
en temps réel qui progresse, et du coup il va falloir savoir l'ennemi où est-ce qu'il en est, savoir nos troupes où est-ce qu'elles en sont, et jouer aussi avec les subtilités, c'est-à-dire qu'il y a des unités de reconnaissance qui peuvent pénétrer la ligne ennemie sans faire bouger la ligne de front. Et ce qui permet d'espionner tout simplement l'armée adverse et savoir où est-ce qu'ils en sont, foutre dans un fourré une escouade de reconnaissance et savoir quels sont les mouvements de troupes de l'armée adverse et jouer avec ça. Et c'est vraiment très sympa. On a aussi,
tu peux te les faire zigouiller, tes mecs de reconnaissance.
Il y a vraiment plein de choses qui sont prises en compte.
Il les a mal placées.
Voilà, il y a des unités aériennes. Je parlais d'avions de reconnaissance tout à l'heure. Il y a évidemment les avions de reconnaissance qui doivent être pris en compte. Il y a les bombardiers, il y a plein de choses. Il y a aussi des unités hors carte. Donc les unités hors carte, c'est en fait des unités qui sont pas sur la carte. On a par exemple une unité qui s'appelle le VAB, qui permet en fait, c'est une unité de reconnaissance qui est utilisée sur la carte, qu'on va pouvoir zoomer, savoir où se trouve l'unité ennemie. Ensuite on a nos bateaux, donc nos croiseurs qui sont sur les côtes normandes, qui vont tirer un tir de barrage, qui vont pouvoir faire des tirs ciblés sur la map pour pouvoir détruire l'adversaire. On a plein de choses comme ça, peut-être des petites subtilités. Pareil pour les avions, les avions sont hors carte, mais une fois qu'on les utilise, on les voit arriver à pleine vitesse sur la carte, bombarder. Enfin c'est vraiment très sympa.
Ça a l'air vraiment ultra technique, quoi.
C'est ultra technique et c'est un jeu qui se savoure. Et tu parlais de tutoriel pour Guilty. Là c'est pareil, il y a un tutoriel qui est vraiment assez large, où on apprend chacune des notions du jeu. Donc on débarque pas finalement.
Si on peut dire.
Voilà.
C'est un mauvais jeu de mots.
On n'est pas lâché en pleine nature sans savoir quoi faire, sans savoir rien faire. On nous apprend vraiment, on nous prend par la main aussi. On nous dit comment marchent les unités d'infanterie, ensuite comment marchent les unités de reconnaissance, comment marche l'artillerie, comment marchent les unités aériennes. et vraiment on nous apprend, voilà, bah là, on voit vraiment le zoom à quel point il est important. Il y a plein de choses qui rendent en compte. Il y a aussi le ravitaillement, on va avoir des unités de ravitaillement spécifiques, on va envoyer notre camion de ravitaillement, donc d'essence, qui peut l'envoyer directement sur le front, et il peut en plus se faire capturer par l'ennemi, et donc du coup on peut jouer comme ça aussi avec ça.
Je vous dis, ça me fait mal à la tête
et c'est très sympa.
Je trouve ça fascinant, mais quand on parle, je suis incapable d'y jouer.
Mais le truc c'est que
il en parle bien.
Le problème c'est ça, c'est qu'on se dit c'est pas abordable, ça peut même faire mal à la tête, mais en fait le tutoriel est si bien fait que on apprend petit à petit, on est pris par la main. Au début on se bat, je pense aussi comme dans Street Fighter, hein, au début on se prend des roustes, ouais. On se prend des roustes monumentales en multijoueur, et puis petit à petit on commence à apprendre les techniques que les autres ont, on commence à élaborer ses propres stratégies, ses propres tactiques, et on commence à évoluer comme ça, en sachant que si on a un pote ou deux c'est encore mieux pour y jouer. On peut se faire ça au micro des sessions de stratégie vraiment intenses.
Combien de temps une partie de ça?
Alors une partie ça peut tout simplement durer entre 15 minutes
2 mois
400 entre 39 et 44
ça peut durer entre 15
c'est en temps réel,
hein, en temps réel c'est 4 à chaque fois,
tu pars en guerre mec, t'en as pour
ça peut durer entre 15 minutes et 1h30 quoi, parce que on peut soit se faire vraiment défoncer.
Ah oui, 15 minutes tu te fais défoncer,
bah, tu peux te faire défoncer mais même en étant un bon joueur, parce que je me rappelle sur Wargames c'était le cas, il y avait des mecs qui
tu dis ça parce que t'as perdu en un quart d'heure et
non il y a des mecs
tu peux
apprendre à savoir saigner le jeu et gagner plein de parties, et d'un coup tu vas tomber sur un adversaire particulièrement coriace qui joue hyper stratégique avec ses potes et qui peut te défoncer parce qu'il a une stratégie que t'as pas l'habitude de voir, et il va tout le monde défoncer quoi.
Mais c'est vrai que le gameplay c'est vraiment loin d'un Command & Conquer qui est au final plutôt simple, c'est plus, ça se rapproche un tout petit peu plus d'un Civilization.
Et ben en fait c'est ça, c'est moins de la micro gestion, c'est plus de la macro gestion, c'est plus vraiment de la stratégie d'envergure où tu vas même parfois même pas zoomer sur des unités, contrairement à des jeux style Age of Empires ou Command & Conquer comme tu précisais.
Là, c'est plus de la macro gestion, du coup tu passes plus de temps en dézoomer qu'en zoomer.
Alors,
finalement
en fait quand
c'est
tu zoomes
pour te faire plaisir, tu
voilà
voir,
quand tu zoomes c'est vraiment pour te faire plaisir.
Alors mon PC il tient le choc. T'as vu le temps qui brille,
est-ce que j'arrive à voir le petit logo de la marque sur le fauteuil?
C'est limite ça, hein, tu peux voir ça, le petit logo de Division sur ton char. Mais non, le jeu est pas si gourmand, donc finalement c'est un peu bête de parler ça, mais non il est vraiment pas gourmand, c'est ça que aussi jeune système.
Il est joli, hein,
il est très très sympa. C'est surtout le pros qui va travailler de ce côté-là, parce que la carte graphique elle est mise à contribution, mais pas autant que ça finalement. C'est les jeux stratégie en général, c'est vraiment le processeur qui va travailler. Ouais. Et là, oui, donc faut un bon processeur, mais c'est voilà, ça pas une énorme config. Et donc voilà, entre 15 minutes et 2 heures, une partie, ça dépend vraiment de sa stratégie, ça dépend d'un nombre incalculable de choses, mais c'est pas si inabordable que ça.
C'est le football manager de la seconde guerre mondiale.
Je disais, voilà, quand on zoom, c'est vraiment pour se faire plaisir. Quand on a en fait engagé une action, qu'on attend que ces unités arrivent sur place, ou que ces unités sont déjà en train d'être engagées avec l'ennemi, on va voilà, prendre le temps de zoomer de 3 minutes pour voir ce qui se passe. Mais sinon, effectivement, on va être plus dans cette terre de zoom. Voilà, ceux qui sont premiers qui peuvent voir, on voit nos cartes de très loin, et on va comme ça faire bouger nos unités, en sachant que là le système de couverture est extrêmement important dans ce jeu. Le moindre bosquet, le moindre changement topographique, le petit vallon, ça peut vraiment changer du tout au tout, et on peut mettre à l'abri ses unités d'un char ennemi, ne serait-ce qu'en le plaçant derrière un bosquet ou derrière un bocage. C'est vraiment c'est vraiment très minutieux en fait.
Ouais, tu donnes envie, hein.
Mais c'est pas inabordable, voilà. Minutieux mais pas inabordable.
C'est bien ça. Garde-le pour ton test.
Minutieux.
Bah merci Camille. Donc c'est un test qui paraîtra cette semaine normalement.
Ouais. Bah, je peux déjà sans vous dire la note que ça sera au-dessus de 8. Bah, ça sera entre 8 et 10, donc voilà.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Ok. C'est bon. Ok. D'accord. Un des meilleurs jeux de stratégie de ces dernières années. Le voici, le voilà, il arrive. En attendant, il y a eu d'autres tests cette semaine. Endless Space 2, t'as beaucoup fait de tests toi récemment, Camille.
De stratégie, ouais, aussi.
Qui a eu 8 quand même.
Bah là, c'est du 4X, donc c'est encore un style de stratégie différent. Bah, c'est plus dans le genre Civilization.
Ouais.
Et c'est encore un studio français, Amplitude, très sympathique d'ailleurs, qui présente ce jeu qui ressemble un peu à Stellaris du studio Paradox. Et là, c'est vraiment du 4X spatial. Et on va devoir gérer
expansion,
extermination, exploration et alors le quatrième
extermination.
Extermination. Voilà, et on va devoir en fait mener ça.
Extermination, extermination, extermination.
On va devoir mener sa civilisation, voilà, à son apogée, devoir conquérir la galaxie, voilà. Ouais. Rien que ça. Donc
là aussi, c'est des parties de 2 ans.
Alors là, oui, mais
on a eu Dreamfall Chapters, qui a été le test d'Angèle, qui nous est revenu d'entre les morts il y a pas longtemps. Dreamfall Chapters. Remasters qui a eu 5. On a également la fin d'une trilogie, hein, Dreamfall Chapters, qui a été entamée il y a 12 ans, je crois. C'est un peu comme Shenmue, tu sais, les gens ils ont attendu super longtemps.
Plus que ça, le premier Dreamfall ?
Ouais, peut-être même plus, ouais, je sais plus.
Ouais, moi j'étais gamin quand c'est
T'étais
sorti
gamin.
Ce machin.
Voilà,
ouais.
C'est le troisième épisode qui est sorti et c'est assez décevant, il a eu 5 sur 10. Voilà. Très rapidement, Gnog également sur PS4, jouable au PSVR, ça a trop de la gueule. Ça a 8 aussi, c'est Thomas qui a testé ça cette semaine. Puzzle avec des images complètement psychédéliques où il faut retourner les trucs et donc en VR ça prend tout son sens, tu peux tourner autour, etc. Assez cool si vous avez un PlayStation VR. Rime évidemment qui a eu 9, c'est Plume qui l'a testé.
Magnifique jeu.
Jeu superbe visuellement entre Ico, les Cités d'Or, beaucoup d'inspirations différentes.
The Witness au niveau du.
Un peu de The Witness,
c'est cool. Avec ce jeu là qui avait eu une histoire comme quoi une boîte avait présenté des trailers vides ou je sais pas quoi.
C'est ça, c'est pas ça exactement.
Ouais,
mais
ils avaient pas
Sony avait cassé
moteur,
son exclusivité. C'est pas ça. Non. Sony avait cassé l'exclusivité qu'il devait avoir avec eux en disant que le jeu n'existait pas, etc. Puis les autres disaient bah non, il existe.
Ouais, c'est des Espagnols,
par,
c'est ça.
Ouais, c'est ouais. Tequila. Merde. Tequila Games.
Bah, je sais pas.
Cette ambiance un peu façon Y.
Donc apparemment la fin est extraordinaire. Il faut absolument aller jusqu'au bout. Il y a un twist final extraordinaire.
Il paraît que c'est un très bon jeu. Ouais. Tous ceux qui ont
bah,
joué.
C'est assez mitigé. Moi j'ai vu.
Ah ouais,
bon, il a quand même un 80 métacritique, un truc comme ça.
Ouais,
mais j'ai vu qu'il y a certains grands médias qui lui ont mis des 6 sur 10.
Je pense que t'aimes ou t'aimes pas l'univers, tu vois.
Bah ça déjà, moi je trouve ça assez cool.
Moi ça me branche pas l'univers.
Ça te branche pas, toi ?
Visuellement, non.
D'accord.
Ça me fait penser à Ico. Je garde un très mauvais souvenir d'Ico.
Ah bah, si t'as pas aimé Ico, on peut plus rien faire pour toi. Mais il y avait Blast Blue, c'est pareil. Tu vas nous lâcher avec ton Blast Blue. On a eu également ce mois-ci Portal Knights, un petit... comment appelle-t-on ça, un Minecraft-like avec un essai de scénario pour les enfants, ça peut être pas mal, c'est assez réussi. 7 sur 10 de la part de notre ami Dopamine. Et enfin The Surge, encore un test de Camille.
Un
Dark Souls-like
version post-apocalyptique futuriste
avec des beaux petits défauts, mais
c'est un jeu pareil qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. C'est un jeu,
t'as mis 7
très vite. Ouais, moi je suis pas, je veux dire, très bien,
un fan de Dark Souls, on peut le dire.
J'ai reconnu favorablement tous les points positifs, mais c'est pas le jeu m'a pas forcément beaucoup attiré, mais après je reconnais que c'est un bon jeu.
Et en comparaison de comment il s'appelle leur jeu précédent, c'est un autre studio, Lord of Fallen. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à Lord of... Parce que moi, Lord of the Fallen, j'ai pas aimé du tout.
Alors, à mon avis, tu risques de pas aimer non plus.
Ouais.
Ça améliore en fait tous les défauts du jeu, mais ça reprend quand même tout ce qui pouvait être jugé comme positif.
Ça reste des défauts, quoi.
Donc, aux yeux de certaines personnes, oui, aux yeux d'autres.
Est-ce que les PNJ ont toujours des animations improbables?
Là en fait c'est moins choquant puisqu'on se bat surtout contre des robots, donc
Le système de loot qui est intéressant.
C'est le système de loot qui est intéressant
parce qu'en fait le loot dépend des parties du corps de l'adversaire.
En fait tu vas pouvoir démembrer les ennemis et en fait tu vas cibler vraiment un loot en particulier et selon que
ils ont fait du Tukiden.
Ouais, voilà, et puis tu vas devoir faire un finish en fait pour récupérer le loot.
Et si tu fais mal ton finish, tu récupères que dalle.
Mais et si tu meurs,
je
pense qu'il peut
ouais, ouais,
beaucoup de loot dans les jeux.
Beaucoup de loot, hein. Ouais. Il faut du loot, hein, maintenant. Il faut du loot du monde.
Un jeu sans loot, c'est plus un jeu.
À force de crier au loot.
Voilà. Putain, t'es le roi du calembour, toi.
Oh bah... Moi, je me fais plaisir. Hein.
Ah bah, attends, bon, et vous savez quoi, on a quasiment plus de temps. Je vous propose un truc que j'ai repompé chez les amis de l'After Foot. Je sais pas si vous connaissez cette émission. Si vous aimez le foot, c'est la meilleure émission du
sur RMC.
Ouais, on va faire un je m'en fous pas. Je vous balance des infos, et vous me dites je m'en fous pas. En gros, vous en foutez. Il y a pas de commentaires. Vous en foutez pas. Bah, vous dites ce que vous avez à dire dessus. Sea of Thieves.
Je m'en fous
le
pas.
Le jeu imprononçable. Vous en foutez
pas.
Alors, ils ont annoncé une version alpha, une version PC qui progresse et des live campaigns. Tu t'en fous pas, pourquoi?
Parce que malgré tous les points négatifs qu'on peut lui trouver, alors qu'il est même pas sorti, il a un charme particulier qui est bah, indescriptible quoi. C'est vraiment le monde de la piraterie. Je pense, enfin, c'est un
le monde de la
Piraterie est sous-exploité dans le jeu vidéo.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, c'est quelque chose. La piraterie encore un monde ouvert.
Et là, c'est
un monde ouvert.
Multijoueur surtout.
Voilà. Où et sandbox. Il faut le préciser, les jeux sandbox, c'était à la mode un certain temps.
Tu peux boire une chope de.
Voilà.
Ça m'intéresse.
Mais justement, tu
rhum. Y a-t-il du rhum?
Tu soulignes ça. Tu peux te poser dans une cabane et jouer à BlazBlue.
Mais c'est ça. Non, mais tu soulignes ça. Mais c'est vraiment le jeu en fait de la détente quoi. C'est il n'y a pas forcément d'objectif et tu peux faire des choses qui n'ont rien à voir avec le combat quoi. Tu peux prendre ton temps, faire de la musique dans une taverne, être avec tes potes, faire une chasse au trésor, prendre ton temps, enfin ça voilà.
Et Johnny Wayne va passer son temps dans la taverne, donc c'est ça, c'est ça le problème. Autre info, la NES Mini qui s'est mieux vendue que la PS4 et la Xbox One aux États-Unis en avril. C'est pas un truc de fou ça?
Bah ils font chier.
Non mais bon, apparemment ils ont quand même annoncé. T'as une NES Mini toi?
Non, franchement moi j'aimerais avoir la Super NES Mini.
Ouais, Sega qui travaillerait sur un produit intitulé Sega Forever. Vous en foutez?
Moi je m'en fous.
Non, ça peut m'intéresser. Il y a
des bonnes chances que c'est Sega quand même. Ça a l'air d'être un truc un peu.
C'est ça quoi?
Un nouveau truc de jeu Mega Drive sur
PS4. De tous les plus grands jeux.
Ça a l'air d'être un truc corde sensible de la nostalgie quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Moi j'aimerais bien qu'il fasse une compil de genre tous les jeux Dreamcast. Tu vois, ce serait super. Bon, ça prendra pas de
temps. T'avais un Dreamcast Collection sur 360.
Oui, c'est vrai.
Mais il y avait 3 jeux chaque fois. Ils ont fait 3 volumes.
Mais bon, ils sont quand même gros les jeux.
Et il n'y a jamais eu Shenmue.
Il n'y a jamais eu Shenmue.
Il arrive, ne vous inquiétez pas. Nintendo Switch, alors ça, je sais pas si vous avez vu, c'est un truc de ouf. Peut-être
ouais,
ça va t'inspirer. Ils vendent la boîte
quoi.
De la console au Japon, le pack Splatoon, vide. Tu t'achètes que la boîte.
C'est comme ça, si tu t'achètes Splatoon et les Joy-Con.
300 ou 400 yens, je sais plus combien, enfin un prix dérisoire.
Si tu t'achètes Splatoon et les Joy-Con vert et rose.
Déjà, est-ce que t'arrives à comprendre pourquoi?
Si t'avais un pack Splatoon dans
C'est pour le collectionneur. J'ai un jeu de mots, mais j'ai perdu. Non, ça va revenir. Alors, non, je sais pourquoi, je sais pas.
Bah, parce qu'en fait, il y a des mecs qui sont des collectionneurs, comme Johnny Wayne ici présent, et qui seraient dégoûtés d'avoir acheté la Switch quand elle est sortie.
D'accord.
D'acheter Splatoon évidemment quand il sort, mais ils ont pas eu la boîte collector avec.
Les Joy-Con.
Et donc tu peux acheter quand t'es collectionneur la boîte vide.
Nintendo jusqu'où iront-ils pour du pognon? C'est pas un canular, c'est un calamar.
Oh là là,
ça c'est pas mal.
Là, si c'était les gars, je sortirais mon 10 sur 10. 10 sur 10. Non,
ouais. Mais bon, Nintendo, dès qu'il y a du pognon, bon, c'est un petit peu. Bon,
allez. C'est un peu comme Capcom et tant d'autres. Platinum Games, une nouvelle IP en préparation. Bien à eux.
Je veux le test.
Voilà. Il en profite pour réserver le test. Ok, c'est bon, tu vas te fighter peut-être avec
Plume. Avec Plume, on va pas être d'accord.
Un nouveau Dragon Age en développement.
Moi, ça m'intéresse.
M'en fous, moi.
Forcément. Dragon Age, c'est le on va dire, le petit-fils de Baldur's Gate.
Dragon Age Andromeda.
En plus, oui, Dragon Age, c'est. Les derniers épisodes étaient plutôt pas mal. Après, il y a eu des défauts aussi qui ont été beaucoup soulignés par les amateurs de la saga, surtout du premier.
Faut espérer qu'ils fassent pas avec Dragon Age ce qu'ils ont fait avec Mass Effect.
Ah bah ça c'est clair, oui.
Oh bah c'est
fait. Pour le coup, ça serait vraiment.
Ces animations de Mass Effect.
Non, mais c'était bon quand même.
Tu te rappelles du Big Adventure?
Non mais
c'était mieux.
Non mais le problème c'est que justement moi j'ai fait partie aussi, j'ai été charmé quand on en avait parlé pendant le podcast, et il y a beaucoup de joueurs aussi comme moi qui on y a joué une dizaine d'heures et puis on a abandonné parce qu'en fait finalement l'histoire n'était pas intéressante quoi. Enfin, il y avait pas de carotte qui faisait envie de continuer quoi.
Bah espérons
la
que...
carotte était là mais elle était pas très bonne à
voilà,
la fin.
C'est ça, ouais.
Et puis il manquait le bout de la carotte en DLC enfin voilà.
OK.
Non ouais.
Bon, le nouveau jeu du créateur de El Shaddai.
Faut espérer...
The Lost Child a été annoncé.
Faut espérer qu'il sorte en même temps que le nouveau Platinum.
Non, mais attends,
comme ça,
déjà, est-ce que tout le monde ici connaît El Shaddai?
Non.
Non.
C'est un c'est un beat'em all très minimaliste,
biblique.
Mais
biblique dont le méchant était Lucifer et toi t'étais un personnage d'un livre apocryphe de la Bible et t'étais guidé par comment il s'appelle l'archange
Gabriel ouais.
Qui était une oie qui volait dans le ciel.
C'est un jeu japonais. Imagine du cel shading sans les contours déjà au niveau graphique. Voilà, donc c'est une patte graphique très particulière.
J'ai les deux à la maison.
J'aime beaucoup ce jeu.
Ça, c'est Lucifer, lui.
Ah, mais j'ai vu la gueule de ce jeu. Ok, d'accord, attends.
Ça, c'est le nouveau.
Ah, bah là, t'auras pas d'image du jeu parce que c'est vraiment un teaser.
Ouais.
Mais par contre, on voit que c'est dans le même univers du coup que El Shaddai, qui était
d'accord.
Un jeu complètement barré,
ouais,
mais que j'avais bien aimé en fait.
Ouais, c'était complètement fou.
Avec un meme, il y avait eu un gros meme avec ce jeu, c'était Daijo Buddha Mondai Night. T'as jamais entendu ça?
Tu prononces bien.
Daijo Buddha Mondai Night.
Daijo Buddha Mondai Night.
C'était dans tous les trailers du jeu, t'avais ça. Ça veut dire, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Et le héros disait ça tout le temps, dans toutes les vidéos, c'était devenu un meme, ça faisait rire tout le monde. Enfin bref, voilà. Daijo Buddha Mondai Night. jamais. Donc moi je m'en fous pas, comme vous avez
non,
vu.
Non, moi je m'en fous pas non plus.
Des licenciements chez IO Interactive, vous avez vu que IO Interactive,
bah, c'est triste.
C'est la fin d'une histoire avec Square Enix. Ils ont fait quelques licenciements, malheureusement.
On s'en fout pas, évidemment.
On s'en fout pas, évidemment, mais enfin, il n'y a pas besoin de passer deux heures là-dessus. On espère juste que Hitman va pouvoir faire le voyage avec eux vers le nouveau propriétaire qui est en train d'être
recherché. Ça bouge beaucoup hein, chez Square Enix, là. Ils sont en train de faire plein de choses. Je ne sais pas s'ils vont dans la bonne direction.
On en parlait tout à l'heure, GTA 5, 80 millions d'exemplaires distribués. C'est un carton monumental.
Plus grand jeu de l'histoire.
Si tu prends la liste des jeux les plus vendus de l'histoire, c'est toujours des jeux qui étaient en bundle avec une console ou des jeux phénomènes genre Minecraft qui sont sortis sur 10 000 versions différentes, sur 10 000 plateformes différentes. Et t'as GTA qui arrive derrière.
Bah, quand même,
ils ont fait 5 millions
versions,
entre vendredi. Hein. Entre
5 versions.
Entre.
T'as PS360, Xbox One 4,
ça reste
PC. Et PC.
Mais ouais. Bon, c'est pour dire vraiment Rockstar, c'est
non,
des dieux. Et...
Bon, moi je l'ai acheté
GTA
deux fois.
GTA 5, c'était un truc de fou.
Moi aussi,
c'est trop
GTA
5.
Franchement, GTA 5, on peut dire c'est un jeu où. Il y en a dit, c'est un jeu où t'avances dans la ville, tu fais tout casser, mais c'est un jeu à chaque fois exceptionnel.
Alors, il y a eu un gros leak Ubisoft avant le 3, c'était Mario et les lapins crétins sur Switch. Vous en foutez ou pas?
Non,
non,
moi je m'en fous.
Ça peut être marrant.
Ça peut être sympa.
C'est RPG en fait.
Moi j'aime bien les deux.
Donc il y a tous les documents, voilà, on voit les visuels là, avec Mario Cobra qui a son,
son
flingue sur les bras,
ou Metroid,
comme tu veux.
Exactement.
Non, apparemment ils ont laissé vraiment les mains libres à Ubisoft pour utiliser leur univers, ce qui est pas banal chez Nintendo.
Ouais.
Donc on verra ce que ça donne à l'E3 évidemment.
Le mélange ça peut être sympathique, je pense. C'est sur quoi? Ça sort sur quoi?
Sur Switch.
Sur Switch, ouais, ça c'est bien.
Ouais, ça va être pas mal, je pense.
Ça c'est bien, ouais.
Rendez-vous à l'E3 pour en voir plus, mais bon, voilà. Xbox Game Pass qui est lancé le 1er juin. Je trouve ça génial comme idée.
Ouais.
Ça, je pense que ça va cartonner.
Ouais, je pense aussi.
Enfin bon, à la hauteur de la Xbox One, parce que tout le monde n'a pas une Xbox One.
Ouais, c'est ça.
Un peu moins répandu que la PS4 dans les foyers, mais l'idée c'est évidemment d'avoir un peu le Netflix. Hein,
Netflix, tu loues des jeux.
Voilà.
Mais du coup, tu les DL ou
tu les télécharges.
Ouais.
En fait, tu payes 10 euros par
c'est
mois.
C'est pas comme le PS Now.
Tu payes 10 euros
ouais.
Et là, t'as accès à tout un catalogue d'une centaine de jeux au départ. Et de toute façon, tu vas pouvoir le tester, hein, Johnny One. Il y aura 14 jours gratos.
Ouais, mais j'ai pas de Xbox One.
Eh ben, tant pis pour toi.
Oui,
tu pourras pas le tester.
Je la passerai.
Je la passerai, je m'en sers plus.
Je la passerai.
C'est comme GeForce Now de chez Nvidia.
Oui, exactement. Ouais. Même principe.
Allez, PlayStation VR, Santa Monica Studio, qui annonce le studio de God of War, donc, hein, qui annonce un gros jeu VR. Comme quoi, la VR, c'est pas fini.
Bah,
c'est
ouais.
Une des grandes questions que je me pose, c'est est-ce que Sony sera aussi présent avec le PlayStation VR à l'E3, qu'il a été ces deux dernières années pour en faire la promotion.
C'est ce que j'attends de l'E3 de cette année, moi, qu'on nous montre enfin des trucs sur VR.
Bah, il y a quand même des trucs.
Des vrais jeux, tu veux dire.
Ouais.
Vrais,
attends, il y a eu Resident Evil, Farpoint, c'est vraiment pas mal, je sais pas si vous l'avez testé.
Un peu, faut la tester, c'est pas. Pour moi, le vrai premier jeu, c'est Resident Evil.
Ouais, Resident Evil.
Vraiment.
La caisse.
Mais
c'est juste extraordinaire en VR.
C'est super. Mais à part ça, la VR, bon.
Moi, bon, Farpoint, c'est vraiment pas mal, moi, je trouve.
C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas incroyable, mais c'est pas mal. C'est la vraie expérience. C'est pas du.
Bon, c'est pas un mini-jeu ni une expérience à la noix. C'est un jeu complet.
Voilà, c'est bien reconnu, tu vois. C'est pas. C'est bien. Bon.
Bon, enfin, on verra. Donc, Santa Monica qui travaille sur. Donc, le développeur de God of War, hein, qui travaille sur un gros, entre guillemets, gros jeu VR.
VR.
Ça fait plaisir. Fumito Ueda qui annonce que son prochain jeu pourrait être un monde ouvert.
Ouvert.
Voilà, retour un peu à ce qu'il avait fait avec Shadow of the Colossus. Vous en foutez?
Oui.
Vu qu'il sort pendant 15 ans.
Il y en a trop. Je m'en foutrais pas à l'époque.
Castlevania, le teaser vidéo de la série Netflix, vous en foutez?
Je suis curieux.
C'est dommage que Plume ne soit pas là.
C'est dommage que Plume ne soit pas là pour nous en parler. Bah, on sait que c'est l'univers de Castlevania 3.
Il y a The Witcher aussi, je sais plus.
Ça arrive le 7 juillet et franchement, ça a l'air classe, je trouve, visuellement.
Je me demande qui c'est qui vont. Ouais. Ah, j'aurais bien aimé le film.
Le film?
Ouais.
Un film directement?
Un film. J'aurais bien vu Matt Mikkelsen.
Je sais pas si. Tiens, si, on voit très bien qui
c'est. Ouais,
il est partout.
Il est partout.
Il est partout, alors pourquoi pas dans Castlevania?
J'aurais bien vu, ouais. Mais ouais, je sais pas.
Bon, là, il y aura Alucard et Trevor Belmont, apparemment, dans cette série. Bon, ça reste bien mystérieux pour le moment, mais de ce qu'on voit, ça a l'air d'être une série d'animation japonaise un peu. Classique, on verra ce que ça donnera. Plume vous fera, à mon avis, un hors-jeu là-dessus. Capcom qui annonce Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch.
M'en foutez.
Je m'en fous.
Si bon,
c'est un très bon jeu à chaque fois. C'est vrai que la communauté commence à évoluer. Plus par rapport au Japon, c'est encore un minime, mais c'est quand même un très bon jeu à chaque fois, Monster Hunter. Faut aimer, franchement.
Mais il y en a un peu trop.
Il y en a un peu trop, mais bon, il y a une communauté.
T'en
a
en tout cas, ils ont annoncé une version collector de la Switch.
Ah ouais, ça c'est cool.
Si vous avez vu, elle est.
Attends, remonte Poufy. Je veux bien savoir si j'achète ou pas.
Elle est nulle.
Ah, elle est nulle.
Elle est nulle.
Parce que moi j'attends une version collector d'une console en fait.
Non, je sais pas si elle est dans la vidéo en plus. Elle est dans la vidéo ? Non, il y est pas. Hein. Mais en gros, il y a que le dock qui est imprimé avec des Au lieu d'avoir fait des Joy-Con spéciaux.
Ouais, moi je veux des Joy-Con spéciaux, je veux un dessin sur la tablette.
Moi, je pensais que t'aurais l'œuf du dino. Voilà. Carrément dedans.
À quand une version c'est un peu nostalgique, genre Super Nintendo ou Dream ou GameCube, ça serait pour être très sympa quoi. Moi je serais direct preneur.
Je crois que t'as ma Vita Poufi là sur la Play, tu peux la montrer. Genre une vraie console collector, c'est une console avec le dessin inclus dessus quoi, tu vois.
C'est pas une Vita, c'est une PSP Go, c'est ça?
Ah non, c'est la Vita. La Vita là, attends, tac.
Vita, la Vita.
Tu vois, on peut la montrer.
Vita, le nombre de Vita,
des jolis petits
de Vita
dessins derrière. Moi j'en ai 3. Si on compte que les portables, j'en ai 3.
Ah oui, parce que t'as la
Vita.
Allez, dernière info avant qu'on conclue. Un nouveau Seaman qui a été teasé par le créateur de Seaman. Vous en foutez ou... Et vous voyez ce que c'est Seaman?
Non,
Seaman,
pas du tout.
Tu vois pas ce que c'est?
Non, je sais pas
tu
ce que
pas,
c'est.
Tu connais pas non
c'est
plus.
C'est quoi déjà? J'ai plus.
En fait, c'était un simulateur sur Dreamcast. T'avais un micro et t'avais un
espèce de poisson. Un poisson comme
et tu devais lui parler.
La tête de poisson.
Et tu devais lui donner un nom. Oui. Tu l'appelais Genius. Genius, comment ça va aujourd'hui? Au bout d'un moment, il te répondait, tu vois. Et il avait un visage qui devenait humain. C'était hyper dérangeant.
Je m'en rappelle.
C'est spermatozoïde. Exactement, oui, je m'en rappelle.
Du coup, je m'en fous pas. Ils vont peut-être le faire avec Devolver. Devolver a dit il y a pas longtemps qu'il voulait ressusciter cette licence.
Imagine en VR.
J'ai nage avec Seaman. Bon, voilà, c'est la fin de ce podcast. Après ce grand déballage de l'actualité, centré évidemment sur la baston. Genius, merci beaucoup.
Bah, merci,
on te suit donc sur Game One.
Ouais, sur Game One, sur toute la semaine et tous les mercredis en direct, évidemment.
Tous les mercredis.
Team G1 une fois par mois sur le canal eSport Club, sur Canal Plus et puis sur les réseaux sociaux dans les tournois. Street
c'est en clair le canal eSport Club.
Mais alors non, c'est la première fois quand c'est diffusé, c'est encrypté. Et après, c'est rediffusé en clair.
C'est rediffusé en clair.
Et puis okay. Tu peux le voir sur les rediffs sur le net.
Sur le site du canal eSport Club.
Sur le site ou sur on peut dire YouTube ça.
D'accord.
On peut dire.
Bien sûr.
Je veux dire. Donc voilà, et puis sur les réseaux sociaux pour l'actualité, les salons, les tournois et tout ça.
Ok, bah très bien, ton Twitter @
Norman Genius.
Norman Genius, voilà. Merci encore.
Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Voilà, c'était un plaisir, on s'est bien marré. Voilà, donc à refaire.
À refaire, avec plaisir.
Dès qu'on a de la baston, on peut t'appeler pour épauler notre petit Johnny One.
Et même sur d'autres sujets.
Même sur d'autres sujets, je suis là, s'il y a du Quake.
Ah, ok, alors on te réinvite pour Quake, c'est promis. C'est promis. Merci Camille, merci Johnny One, merci Poufy à la Sono. Et puis merci à tous de nous suivre, toujours plus nombreux, régulièrement. Et voilà, on vous aime, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine tout simplement pour le 420, je sais même plus combien on est, 427e podcast déjà la semaine, et pas un seul en retard hein.
C'est beau,
ouais, c'est beau. Allez, à bientôt les amis, merci encore. Salut. Genius, ciao
ciao ciao.